Bonjour, eh bien, comme chaque mois, nous allons vous parler de théâtre. Là, cette fois-ci, j'ai mes deux invités habituels, Christophe Maury et Nadir Amaoui, et on va parler de la rentrée théâtrale, des spectacles qu'il faut voir, et puis même, de temps en temps, des spectacles qu'il ne faut pas voir.
Mais oui, Jean-Luc Génère.
Ça peut aussi arriver, ça.
On va parler de tout ça.
Voilà, on va permettre aux auditeurs d'économiser leur temps.
Voilà, comme je le dis toujours, les mauvaises critiques sont quelquefois plus intéressante et plus importante que les bonnes, parce que quand on est spectateur et qu'on va au théâtre et qu'on passe une très mauvaise soirée en payant très cher,
un carré à 70 euros
voilà, par exemple, eh bien on revient plus au théâtre pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, et c'est tout le théâtre qui paie ça, quoi. Et cette espèce d'idée aujourd'hui de supprimer les mauvaises critiques, de dire non, voilà, c'est ne pas comprendre vraiment l'importance de la critique qui vous guide, qui vous aide. On peut se tromper, bien entendu, et puis chacun a ses goûts, hein, bien sûr. Mais quand il y a de très très mauvais spectacles, il y a vraiment objectivement de très mauvais spectacles.
Ouais,
comme
bah
quand
oui,
il y en a de très bons, il y en a aussi objectivement de très bons.
Hein, vous qui en voyez 350 par an et qui en jouez 222, vous savez un peu la grammaire des planches.
Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis, je vais au théâtre depuis l'âge de 15 ans, donc je ne dis pas l'âge que j'ai.
C'était hier.
Voilà, c'était hier. Alors, on va vous faire un petit panorama de tous les spectacles. Voilà, on va aller assez vite. Voilà, on va sur tous les théâtres de Paris, ce qui se joue, ce qu'il faut voir, ce qu'il ne faut pas voir. Voilà. Alors, il y a la Folie Théâtre. Moi, je n'ai pas vu de spectacle. Vous avez vu un spectacle, la Folie Théâtre?
Non, pas depuis la rentrée.
Pas encore, on vient de rentrer, vous savez.
Bon, alors, le Théâtre Antoine, le sens de l'humour, alors ça...
Ça vient de démarrer. Pas encore. Bon. Très belle distribution, de très bons auteurs. Donc,
C'est Sacha Judesco, en général, c'est pas mal
Fabrice
ce qu'il fait.
C'est
des vieux de la vieille, quoi.
Voilà, tout à fait.
Alors l'Apollo Théâtre, là encore c'est un petit théâtre de comédie de boulevard, vous n'avez rien vu j'imagine. L'Artistique à Thévin, alors il y a encore l'École des Femmes qui reprend, je sais que Christophe, tu adores l'École des Femmes à l'Artistique à Thévin.
Oui, il faut dire que Lazzarini a fait un travail absolument remarquable. Nous avons une École des Femmes qui est moderne, nous avons Arnolphe qui a enfermé la petite dans un cube de verre avec des caméras partout pour pouvoir bien voir tout ce qu'elle fait. Et alors, ça est reproduit sur des grands écrans et là, il fantasme. Il fantasme comme toute personne regarde son écran, son smartphone et fantasme dès qu'il voit une fille qui est jolie. Et donc, à la fois, il la surveille et il fantasme dessus. Et on va assister à cette Agnès qui est idiote. Exactement comme on le dit au début, elle est idiote et quand elle sort de sa cage de verre, elle marche de façon un peu pénible et puis on sent qu'elle n'est pas dégrossie. Et elle va s'ouvrir, s'éveiller à la féminité et à l'amour. Et alors la scène, lorsqu'elle raconte à Arnolphe comment elle a salué ce passant une fois, deux fois, trois fois, elle le fait en avant-scène. Mais alors, tous les alexandrins sont magnifiquement dits, et je vous promets, on a l'impression d'un sketch de comédie boulevard. C'est remarquablement drôle, et c'est une jeune comédienne. Vous savez qu'elle est québécoise, elle a 19 ans, elle a fait de la danse au départ, et elle n'avait jamais joué sur scène. Quand elle a vu que c'était des alexandrins à apprendre par cœur, cette langue de Molière un peu compliquée, Au début, elle a été prise de vertige. Et la metteur en scène l'a conduite, mais magnifiquement, ça, il faut dire que...
Frédéric Lazzarini,
qui est assez inégal. Hein, mais quand elle réussit, vraiment, elle réussit.
Oui, oui, quand elle réussit.
Et là, j'étais avec une amie en train d'assister au spectacle, et on se retournait de temps en temps en se disant, mais on assiste à quelque chose d'exceptionnel. Et en effet, on a assisté à quelque chose d'exceptionnel. Allez-y, l'école des femmes, emmenez vos étudiants, emmenez vos enfants, allez-y en couple. Enfin, c'est formidable.
Bah écoutez, moi je suis pas allé le voir, parce que comme je joue en ce moment aux Têtes du Nord-Est,
et
donc
oui.
Je n'allais pas critiquer une pièce, voilà. Moi, surtout que je pense que ça m'aurait déplu en plus.
Mais là, Molière est magnifié, vraiment.
Oui, non, mais de toute façon, ça montre bien le génie de Molière.
Oui.
Son talent absolument fou. Alors, à l'atelier, c'est derrière. Ça a l'air d'être assez marrant. Hein, un spectateur qui a perçu, c'est en fait, comment dire ça, assister à un spectacle porté par des acteurs qui semblent jouer leur vie et malgré tous les efforts déployés sur scène, s'ennuyer. C'est le problème de l'ennui au théâtre. Vous n'avez pas vu ça, non ?
Non.
Bon. Non.
Non, mais ça a l'air intéressant. Hein.
J'ai dû m'endormir.
Ou alors, non, je suis passé
dedans, ça a l'air intéressant. Bon, écoutez, on va bien voir. Les galets au tilleul, ça, je ne sais pas ce que c'est. Claire Leroux, Nicolas Chéniaud. Bon.
Non,
bon, pas vu non plus. À l'Athénée, alors là, un spectacle sur Chantal Akerman. Ça doit être extrêmement ennuyeux, non, j'imagine. Parce que Chantal Akerman au cinéma, c'était très, très, très ennuyeux. Mais je ne sais pas ce que ça peut donner au théâtre, moi, enfin. Au Bélier parisien, il y a toujours Big Moser, hein, Mélodie Mouret. Alors, il y a Le goût de la framboise qui va commencer, et puis La zone indigo, ça je l'ai vu. Je l'ai vu parce que la dernière fois on en avait parlé, mais je ne l'avais pas encore vu. C'est toujours une pièce de Mélodie Mouret. Je sais que toi, tu avais été très déçu.
Oui.
Oui. Moi, alors, c'est peut-être parce que tu m'avais dit que c'était très mauvais, que j'ai passé plutôt une soirée agréable, moi. J'ai pas
été... Je devrais le dire plus souvent.
Oui, oui. Non, mais c'est pas très bien. Hein.
J'aimerais saluer le Théâtre des Béliers, parce que ils ont une programmation qui est audacieuse. C'est toujours plein. Ce sont des jeunes, hein, ce sont des trentenaires qui viennent. Alors, il y a le côté bobo, 18e, tout ce que vous voulez. Mais ils ont trouvé un répertoire, avec Mouret notamment, ils ont trouvé un public. Ils font venir des gens au théâtre. Et vraiment, il y a 2-3 séances, quand vous attendez sur le trottoir, vous voyez les gens qui sortent, la salle était pleine et les gens sortent ravis.
Oui, c'est toujours plein. Oui.
Donc,
oui.
C'est vraiment très réussi et il faut vraiment saluer la direction de ce théâtre.
Voilà, il faut saluer aussi Mélodie Mouret qui vraiment est devenu un des auteurs d'aujourd'hui.
Oui.
Alors le problème, c'est que comme souvent, ben ça fait un peu truc, quoi. C'est ça fait un peu systématique.
Vous n'aimez pas l'incrustation de la vidéo
non,
sur scène.
Non. Alors là, bien utilisé.
Vous m'avez un peu converti là-dessus. Vous m'avez un peu converti. Et je trouve que dans la zone indigo, il y en a un peu beaucoup.
Ouais. C'est-à-dire qu'on puisse dire.
Ben oui. C'est-à-dire que si on ne prend le texte. Ben, on n'a pas le spectacle.
Ouais, ouais.
Or, vous prenez un texte quand c'est bien fichu, vous prenez un texte et vous avez le spectacle déjà. Ouais. Là, ben, c'est vraiment, il faut aller le voir pour y adhérer.
Mais c'est une forme de théâtre.
C'est une forme de théâtre.
Moi, c'est pas ce que j'aime, mais je connais bien Mélodie Mouret, qui est quelqu'un de très bien.
Oui,
parce qu'il y a des gens, ils font des spectacles qui ne vous plaisent pas, mais qui sont humainement et théâtralement formidables.
Ah, oui. Bon,
et cette femme est vraiment quelqu'un de très bien. Et puis elle a vraiment fait un parcours magnifique, quoi, depuis ses débuts.
Sa première pièce, Les Crapauds Fous, moi, je l'ai en mémoire parce que je l'avais trouvé
sublime. Moi, j'avais trouvé ça formidable.
Sublime, sa première pièce. Oui, oui.
Mais ensuite, elle a répété ça.
Alors, j'ai loupé la suivante, des géants, mais Big Mother.
Elle a trouvé un truc.
Ouais, ouais. Elle a trouvé un truc. Voilà.
Elle a trouvé un truc et elle a trouvé son identité. C'est-à-dire que c'est vraiment une pièce. Ce n'est qu'elle.
Ouais, ouais,
personne d'autre ne fait ce qu'elle fait. Donc elle a trouvé cette identité, elle le développe. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup cette femme et donc je continuerai à voir ses pièces. Sur la zone indigo, j'ai trouvé que ça allait un peu loin, mais c'est tout.
Ouais. Elle a un côté, dans ses dernières pièces, donc que ce soit Big Mother ou la zone indigo, très engagée sur les choses qui arrivent maintenant dans notre monde. Dans Big Mother, la manipulation des médias, mais ça existe depuis des décennies. Et elle l'a pousser le curseur, puisque ça se passe aux États-Unis. Sur la zone indigo, c'est tout ce qui se passe de manière écologique et avec les animaux. Elle pousse le curseur sur des faits d'actualité.
Et ça, c'est très important.
Voilà. Oui, c'est important de parler de
bien sûr. De trouver un auteur ou une autrice qui donne une vision de son monde, et non pas du passé. On a des tas de metteurs en scène formidables, je pense à Jean-Philippe Daguerre, par exemple, mais qui racontent toujours quelque chose du passé. Alors que là, elle s'empare de notre monde, elle pose des questions, elle donne des jalons de réponse, éventuellement, mais elle nous parle de notre monde. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle un auteur contemporain.
Voilà. Maintenant, moi, avec un thème pareil, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fort que ça, mais enfin, bon, voilà, bon, c'est pas...
Mais alors, vous avez passé une bonne soirée, alors là...
Oui, non, non, une bonne soirée, non, j'irais peut-être pas...
Une soirée agréable.
Non, c'est-à-dire que je m'attendais à une catastrophe.
Et en parce fait, que tu m'en avais parlé... que Christophe déconseille des pièces pour que Jean-Luc...
Non, non, mais bon, voilà, et puis peut-être qu'en plus, ça, chaque représentation est unique.
Bien sûr.
Toi, tu as peut-être assisté à une représentation plus faible, moi j'ai assisté à une très bonne, on ne sait pas, hein, ça, c'est pas...
Principe du spectacle.
Puis tu étais peut-être bien luné ce jour-là... Je sais pas, tu avais rencontré la femme de ta vie ou un truc comme ça, c'est possible, tu vois. Alors
tout
que moi,
possible.
Ma femme m'a quitté, c'est possible aussi, tu vois, on ne sait jamais. Bon, allez. Alors, le Belleville, est-ce que vous avez vu des choses au Belleville?
Pas depuis avant Avignon.
Ah, c'est des nouveaux spectacles, à ce stade de la nuit, France Fiction, Monde Possible. Bon,
je reviens sur les béliers, il y a la framboise.
Oui, le goût de la framboise.
Le goût de la framboise, tu l'as vu, non?
Je l'ai vu à Avignon.
Ah bon, et c'est bien?
Non.
Bon, bah, très bien. Non, mais c'est parfait.
Non, mais je m'attendais à quelque chose de plus...
Non, mais c'est extrêmement court, c'est très bien. Donc, il faut que j'y aille et puis je vais peut-être aimer, alors c'est ça.
C'est pas impossible.
On en reparlera le mois prochain.
Bon, écoute, très bien.
J'y aille, moi aussi, d'ailleurs.
Alors, le théâtre à Bruyères, un soupçon d'amitié.
Que j'ai vu.
Alors?
Alors, moi, je connaissais déjà l'auteur, Philippe Froget. J'avais vu son M comme Marquise il y a quelques années, justement, même pareil à Avignon et au théâtre actuel La Bruyère. Et là, cette pièce-là, je l'avais lue dès qu'il l'a écrite, bien avant qu'elle soit jouée au théâtre, et j'avais beaucoup aimé. Et là, dans la mise en scène qu'a fait Chloé, Froget, sa fille, et qui a pris quatre excellents comédiens, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment parce qu'on est dans les années 50, en Amérique du Sud. Un couple de Français diplomates qui vivent leur vie comme ça. Ils ont un meilleur ami qui est allemand, qui crachait totalement sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout va bien dans leur petit monde. Jusqu'à ce qu'un homme vienne les voir et leur dise « Mais en fait, je suis en train de mener une enquête, mais je crois que votre ami était un des hauts dignitaires nazis de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est planqué ici. Faut que vous m'aidiez à découvrir la vérité. »
Et là, tout de suite, tous les spectateurs ont en tête le nom du docteur Mengele.
Voilà.
Et on se dit, mais non, c'est pas, ils vont pas nous faire ça. Eh ben, ils nous le font.
C'est bien, t'as spoilé toute la en 30 secondes. En fait, c'est bien. Christophe a décidé cette année d'être le plus court possible. J'ai vu la couleur des framboises.
Bon, bah écoutez, alors, c'est voilà. En tout cas, c'est pas mal du tout, même malgré Mengele, quoi.
Voilà, et les quatre comédiens, moi, je les ai trouvés très bons.
Il y a Ariane Mousse, qui est une excellente comédienne.
Voilà, très très bien. Ouais. Simon Lavaron aussi, Cyril Romoli.
Oui. Et joli décor.
Oui, très très beau décor.
Bon, au Café de la Gare, il y a toujours...
Il y a une autre pièce au La Bruyère.
Là, je ne sais pas, en tout cas. Là,
Si.
Le manuel de la jeune mariée, 1957.
Alors. Oui, alors c'est écrit et mis en scène par...
Virginie Lemoine.
Virginie Lemoine.
Ça a commencé, ça?
Oui.
Ah oui, oui.
Bon, c'est pas...
Et
mais alors... c'est une pièce musicale, peut-être, non?
Alors oui.
Ah, c'est pour ça, voilà.
Ça chante, bon. Ça danse un peu. Et on a, il reprend ce qu'il y avait dans les manuels, vous savez, d'éducation des jeunes filles,
ah oui,
pour apprendre à tenir son ménage.
Tu parlais de l'école des femmes tout à l'heure.
Voilà.
Il y avait
tenir son budget, ouais. Tenir tout ça. Et entre ces citations, Virginie raconte, chaque femme raconte sa propre histoire, et les gens sont sidérés en disant mais c'était hier, et ça se passait comme ça. Et moi, j'étais avec une amie qui disait mais c'est exactement l'éducation de maman. Et c'est assez intéressant de voir ce décalage. Alors, naturellement, c'est Virginie Lemoine qui met en scène et qui écrit, donc avec beaucoup de féminité, beaucoup de délicatesse, beaucoup de drôlerie aussi. On rit beaucoup, mais on s'interroge. Et on n'est pas en Afghanistan, mais on peut quand même s'interroger en disant que la condition de la femme a quand même bien très
évolué, ça c'est ça.
Depuis 70 ans.
Alors, donc, j'étais au Café de la Gare, le dîner de famille, bon, c'est une reprise depuis des années, c'était pas mal, moi je l'avais
vu. C'est un classique, c'est une comédie drôle.
Secret de Sherlock Holmes, c'est pareil. La cartoucherie, alors. Théâtre de la Tempête, la mort de Jean-Marie de Balma. Vous avez vu ça, non?
Non, pas de pièce.
Bon,
pas de pièce.
Joseph K., bon, une pièce hein, sur notre ami Kafka. Vous l'avez vu, non?
Non.
Bon.
Non, mais il faut se précipiter d'aller en effet à Vincennes en ce moment, parce qu'on est encore à l'heure d'été et on peut encore trouver son chemin parmi les arbres du bois.
Oui.
Après, en hiver, c'est plus compliqué. Ouais,
je croyais que tu allais parler du champ de course, moi. Bon,
on peut parler de tiercé, si vous voulez.
Oh, bah, écoute, moi, j'adore les chevaux, alors, donc... Donc, ensuite, le théâtre de la Colline, il y a le Chariot, je ne sais pas ce que c'est que ce théâtre-là. Ah oui, si, c'est l'ancien...
L'ancienne Comédie d'Avignon, Comédie Nation.
Ah d'accord, le cas Dominique, ah bah oui, c'est à partir de François Dolto, et on en avait parlé, il me semble. Hein. Une adaptation de Nathalie Boutefeu, ça doit être pas mal, ça, le cas Dominique.
Pas vu, non.
Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Françoise Dolto, parce qu'elle a sauvé mon frère, figure-toi. Alors, en fait.
Le spectacle avec Sophie Forte reprend au Lucernaire.
On en parlera tout à l'heure.
Et c'était quand même très très bien.
Mon frère avait eu un accident caché par notre gouvernante qu'il avait caché. Il était tombé dans la piscine et il était devenu muet. Et 4 ans après, quand il était tout petit, 5 ans après, c'est Françoise Dolto qui l'a refait parler. Donc,
quelle femme.
Bon, alors, le théâtre de la Colline, Rédemption Song, j'en ai marre de ces titres toujours en anglais, bon, ça c'est une autre chose, vous aurez, il y en a pas mal. Vous avez vu ça, non? Bon. Comédie Bastille, alors, il y a toujours la même chose, le radeau de la Méduse, le premier homme, ils reprennent beaucoup de spectacles, le monologue du machin, bon, voilà.
Bah, le premier homme, c'est la première fois qu'il vient à Paris, je crois, d'ailleurs.
Non, il était aux Gémeaux. Non, c'est la première fois qu'il vient à Paris,
non,
absolument. C'est très intéressant, parce que Hugues Le Forestier et Nathalie Mann, qui jouent ensemble, ils sont à la fois à la scène et à la ville, et ils jouent ensemble un certain nombre de pièces qu'ils créent toujours à Avignon. Ils ont beaucoup de succès à Avignon. Et ces pièces, je dois le dire, sont assez inégales.
Oui,
j'avais beaucoup aimé Brigade financière, qui était vraiment une pièce très forte. Le Secret Poutine, bon. Robespierre et Danton a eu beaucoup de succès. Moi, j'ai pas été emballé plus que ça. Et là, le premier homme, c'est remarquable.
Ah bon, bah,
parce que c'est l'histoire d'un couple. Lui, il est prof de philo. Et elle, elle fait un peu de politique dans le quartier, et puis elle monte un peu. Alors elle sort une fois par semaine. Lui, il reste avec ses journaux et ses bouquins. Et puis elle sort. Elle est de plus en plus épanouie. Alors on s'imagine qu'elle a un amant, et en fait, elle est de plus en plus épanouie parce qu'elle fait de la politique et qu'elle monte dans les instances de son parti. Et au bout d'un moment, elle devient ministre.
Ce qui veut dire que de temps en temps, la politique rend heureux.
Oui, et
ça dépend qui.
Et elle s'y épanouit, et elle devient ministre. Et lui, comme il y a la première dame, lui, le premier homme. Et là, il dit, mais attends, c'est moi la tête pensante du couple. Comment, il y a une tête pensante dans un couple? Et là, on va avoir un conflit homme-femme, mais un conflit aussi politique, parce que lui reste de gauche, et elle devient un peu libérale, parce qu'elle est prise par les lois du marché.
Ah oui.
Et alors donc, on a une problématique très intéressante, et c'est à la fois sous l'angle de la tendre comédie conjugale, mais avec des propos qui posent question et qui nous interrogent. C'est très joliment fait, il faut dire que Nathalie Mann et Hugues Le Forestier, là, ont trouvé leur emploi dans une pièce qui, dans le contexte politique d'aujourd'hui, est encore plus intéressante.
Non, mais c'est une bonne comédienne.
Les deux sont
très bons, et à Avignon cet été, ils ont eu un franc succès, puisqu'ils jouaient très tôt le matin, à 10h du matin, ils ont été complets, mais tout le festival, là ça démarre à la Comédie Bastille.
Le bouche à oreille a très bien fonctionné, si on peut y participer aujourd'hui sur Radio Courtoisie à 12h19 en vous disant que cette pièce, Le Premier Homme, vaut le coup d'œil, nous sommes contents.
Voilà. Lundi et mardi à 20h.
Voilà. Alors, j'essaierai d'y aller alors. Alors ensuite, la Comédie des Champs-Élysées. Alors il y a la nouvelle pièce qui va commencer de Laurent Ruquier.
Comédie des Champs-Élysées qui a changé de patron. Ah. C'est-à-dire que Mme Fagadeau a quitté la Comédie des Champs-Élysées, c'est maintenant Laurent Ruquier qui reprend et la Comédie des Champs-Élysées et le studio des Champs-Élysées.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc il produit
c'est
sa
normal.
Propre pièce.
Mais c'est tout à fait normal.
Comme vous au Théâtre du Nord-Ouest, comme sûr, Sacha Guitry aux variétés de 48 à 53, comme...
Camoletti au Théâtre Michel.
Comme Camoletti, voilà. Enfin...
Tu ne parles que des grands, quoi.
Ils l'ont tous fait. comme Molière, voilà, donc ils l'ont tous fait. Et là, c'est intéressant de voir le changement, parce que c'est un théâtre qui a énormément de fantômes.
Bah
c'est
oui.
un théâtre qui est très important. La Comédie des Champs-Élysées, c'est un temple. Hein. Et je voulais interviewer Laurent Ruquier, justement, sur la programmation, sur ce qu'il voulait faire. J'espère pouvoir le faire prochainement. Toujours est-il que...
Moi, c'est un homme charmant, hein. Moi je le connais.
Ah bah, il est merveilleux.
J'ai déjeuné deux, trois fois avec lui, il est tout à fait charmant.
Toujours est-il que là, il ouvre son théâtre face au Ruquier pour la rentrée théâtrale avec une de ses pièces qui s'appelle
Chante et tais-toi. Et puis c'est mis en scène par quelqu'un que j'aime beaucoup, et quelqu'un de formidable, qui est Anne Bourgeois.
Ah bah oui.
Donc normalement, voilà, ça devrait être pas mal. Quoi,
ça devrait être bien.
Hein oui. Et puis ces pièces, elles sont pas toutes si mauvaises que ça. Hein. De temps en temps, il y a une bonne pièce. Alors il s'est planté avec des trucs comme Landru, par exemple, ça c'était très mauvais. La pièce qu'avait joué aussi Huster, et puis...
Je m'étais beaucoup amusé à voir Landru, mais j'étais tout jeune à l'époque.
Oui,
le seul en scène qu'il avait fait sur La Joconde avec Karina Marimont, je l'ai vu. J'avais trouvé ça très très drôle et très intelligent. Bon, après, il faut dire que Karina Marimont est une excellente comédienne.
Laurent Ruquier, il a une difficulté parfois, c'est qu'il a du mal à finir.
Ah oui, oui.
Ça démarre sur une super idée, il y a un très bon rythme, et puis à la fin s'étiole un peu. C'est ce qui arrive dans. Bon, personne n'est infaillible. Mais quand tu fais une bonne pièce, une bonne pièce.
Ouais, de toute façon, on ne l'a pas vu encore. Ça va commencer Chante et tais-toi. Donc oui. On ne l'a pas encore vu.
Et chose très à montrer du doigt, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'était pas, lui, remonté sur scène en tant que comédien. Et là, il remonte sur scène avec cette pièce.
Ah oui, c'est vrai qu'il
joue dedans.
C'est pour ça. Oui, d'accord.
Je ne sais pas où il trouve le temps.
Bah, maintenant, il n'est plus à la télévision, il ne fait plus de télévision.
Non, mais il
a les grosses têtes sur RTL.
Les grosses têtes. C'est vrai que le cher Bouvard, que j'aimais beaucoup, est mort. Ça, c'est triste.
Malheureusement, oui.
C'était un type charmant, le Bouvard. Bon, alors, la Comédie Oberkampf, chérie, on se dit tout ça, c'est les...
Café-théâtre.
Ce soir, on reste zen. Enfin, bon, voilà, on les connaît. Le genre de pièce, la Comédie Parisienne, Comment sauver mon couple, bon... Alors, la Comédie Saint-Martin, le rôti, ça c'était la pièce une pièce d'Allemand d'Asters qui était créée au Théâtre des Gares, il me semble. Hein
oui.
C'est pas mal, c'est assez drôle.
Ça, oui, c'était très drôle.
Je ne l'ai pas vu. Ouais.
C'était très drôle.
Voilà,
déjà, alors, le titre est formidable, oui, le rôti.
C'est un peu décevant d'ailleurs, parce qu'on s'attend à un truc avec le rôti, puis bon, mais enfin sinon, c'est... Non, mais c'est assez drôle.
En fait, c'est un peu comme le prénom, c'est un prénom qui fait qu'une soirée va partir en cacahuète. Là, c'est un rôti.
Voilà, c'est ça. Après, il y a la Comédie Saint-Michel, vous n'avez rien vu à la Comédie Saint-Michel.
Non, parce que j'y vais plus.
Voilà. Bah, c'est un théâtre un peu difficile. Alors, la Contrescarpe, la Promesse de l'Aube, ça, je l'ai vu.
Oui.
Je l'ai vu juste avant de partir en vacances, façon de parler. Et j'ai trouvé ça excellent.
Oui.
Mais excellent, vraiment, je ne m'attendais pas. Tu m'avais dit que c'était très bien. On sait toujours les adaptations de romans, de ce récit absolument. Mais le récit est bouleversant. Bon, on le connaît par cœur, à force de l'avoir vu et de l'avoir lu. C'est à partir d'un texte, d'un roman de Romain Gary, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais vraiment, parce que je m'attendais, tu vois, Tigrane, Mkhitaryan... Ils montent des pièces de Molière d'une manière un peu
contemporaine,
qui me déplaît profondément. Enfin, dans l'esprit, je m'attendais à qu'il fasse joujou avec le texte de Gary, et pas du tout. C'est d'une rigueur, c'est d'une émotion. Il est excellent dans le rôle de Gary. Les deux comédiennes, enfin, il y a une comédienne et un autre, un musicien, qui sont excellents. J'ai vraiment passé une très 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 belle soirée.
Il faut s'arrêter à la personnalité de Tigrane Mkhitaryan. C'est un garçon des banlieues qui aurait pu être un délinquant s'il n'était pas allé au théâtre un jour pour voir une pièce de Molière. Et là, il y a eu une espèce de fusion incroyable entre lui et l'esprit de Molière. Et il s'est dit, il faut que je donne Molière aux banlieues.
Mais il avait joué, mis en scène par Anne Futuro, Don Juan, c'est ça. Je crois que
alors,
c'est comme ça qu'il avait débuté.
Il avait fait un Don Juan, il a fait une École des femmes, il a fait... C'était
l'Avare. C'était Avignon. Le Malade imaginaire, il l'avait fait.
Le Malade imaginaire aussi. Et lui, pour lui, il n'y a que Molière. Et peu à peu, la critique commence à s'intéresser à son travail et à se rendre compte qu'il transmet Molière à des gens qui sont des petits gars de banlieue, qui ont 13-14 ans, qui n'ont jamais, qui parlent un langage qui n'est pas du tout la langue française que nous parlons aujourd'hui. Et c'est comme ça. Et il va les initier à Molière, il va les faire rentrer dans cette œuvre. Alors, bien sûr, il y a du hip-hop, bien sûr,
il y a du langage de banlieue.
Quand dans Don Juan, ça commence par le tabac, bah, le type est en train de fumer du shit. Et il dit, le shit, ça se repasse, etc. Et c'est pas une vulgarisation idiote pour essayer d'aller au plus grand nombre. C'est vraiment transmettre peu à peu l'esprit de Molière et ensuite en tirer beaucoup de nuances, mais aussi d'exigences. Et ce type Tigrane Mythikarian est vraiment à découvrir parce qu'il fait un travail de pédagogie et de théâtre vivant que bien des comédiens n'osent pas faire.
Oui, oui, je comprends très bien. Moi, je ne suis pas très sensible à... J'aime pas trop qu'on manipule les textes comme ça, de cette façon-là. Je pense que on fait quand même un peu joujou avec Molière. Mais bon, j'entends tout à fait ce que tu dis. Et puis surtout, je te dis, là, quand je vois la rigueur avec laquelle il monte ça, chapeau bas, quoi.
Voilà, oui, oui. Voilà. C'est un homme de théâtre.
D'ailleurs, je peux vous donner une exclusivité. La prochaine pièce qu'il va monter, on reste chez Romain Gary, ce sera une adaptation de La vie devant soi.
Ah, très bien. Ouais. Bah, écoute, parfait.
Avec Momo et Madame Rosa.
Ah. Alors ensuite, il y a Terre des Hommes aussi, là, qui se joue.
Alors, c'est remarquable.
Ça, oui, c'est la mise en scène de Thierry Harcourt.
Oui, c'est absolument remarquable. C'est la deuxième saison. Il l'a donné aussi à Avignon, c'était plein. Et alors là, on est sidéré. On est sidéré parce qu'il nous emporte. Et Dieu sait que le texte de Saint-Exupéry, on l'a souvent rabâché, souvent entendu.
Ah,
et puis,
oui.
Et puis, il est un peu suranné. Maintenant, c'est pas vraiment tout à fait la même chose. Mais là, on est complètement parti avec lui et on a l'humanisme profond de Saint-Exupéry qui nous est livré sur scène avec une force, une humanité. Non, vraiment, il ne faut pas rater ce spectacle.
Ah bah, très bien.
À la Contrescarpe.
Bon, ensuite, il y a Les Deux Ânes. Alors, c'est marrant parce que Les Deux Ânes, qui est le théâtre des chansonniers, hein, voilà.
Oui.
Le théâtre des chansonniers, et là, il y a... Là, c'est des vraies pièces, hein. Les Bichons et puis Saul Churchill. Dans Saul Churchill, ça ne vaut pas une pièce.
Alors, Les Bichons, j'ai entendu, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu de quoi ça parle et j'ai vu la distribution. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est sur je crois que c'est sur les frères Goncourt et c'est interprété par Pierre Douglas et Patrick Préjean.
Ah oui.
Voilà. Donc,
Bah Patrick Préjean peut être un excellent comédien.
Ah bah oui, 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 non, mais les deux ensemble qui taquinent les trucs des frères Goncourt
au théâtre marrant,
des
non
deux ânes.
Oui, toi.
Bah, je dis, qu'est-ce que ça peut donner?
Bah, tu l'as pas
sans
vu.
Que ça... Mais non, parce que ça n'a pas encore démarré. Et ça des fois, j'ai un peu peur.
Ça me donne envie.
Que ça cabotine
un peu. Oui, ça peut être marrant. Bah, Douglas, c'est.
Mais les Goncourt, ça cabotine tout le temps.
Que ça cabotine
le journal des Goncourt, c'est vraiment du cabotinage.
Que ça cabotine trop.
Ah bah oui, mais si
il a du respect pour les concours, c'est bien, parce qu'il est tout jeune.
Il est tout jeune.
C'est beau, tandis que nous qui sommes des vieux, surtout moi, vraiment les concours...
Mais ça cabotine trop au niveau comédien,
si
pas au niveau
peut,
du texte.
Si on peut initier...
Ils sont
peints
avec leurs 50 euros.
Mais ils sont épouvantables. si on peut initier le public au journal des Goncourt à travers un spectacle comme ça, je dis allez-y.
Tout à fait.
Parce qu'ils sont méchants, les Goncourt, ils sont terribles. Et puis alors, il y en a un qui meurt, l'autre termine le journal seul. Et puis, alors, ils sont pleins de ressentiments. Ils détruisent tout le monde. Ils détruisent Jules Renard, ils détruisent Feydeau. Non, ils sont terribles.
Bon, la Divine Comédie. Champollion et Égypte, mon amour. Vous n'avez pas vu ça, ça
non.
Non. Bon, au théâtre d'Edgar, là, au théâtre d'Edgar...
Ah, il faut que j'y aille.
Au théâtre d'Edgar,
il y a...
Oui, bah oui, notre dernier invité ici, c'était Luc Hamet, qui est le directeur du théâtre, qui est un type absolument merveilleux.
Formidable.
Bah ouais. Et là, il avait monté, entre autres, la photo de mon pote, qui est très drôle, hein. C'est très, très amusant, la photo de mon pote. Puis c'est du couscous à l'Élysée, enfin, c'est de la comédie de Bouvard, on en a parlé la dernière fois, avec lui assez longuement, on va pas revenir dessus.
Mais ça fait du bien.
Voilà.
Et dans cette année qui va être pénible, aller voir à la photo de mon pote.
Oui, oui, tout à fait, ça peut être marrant. En tout cas, c'est bien, moi je l'ai vu, hein, c'est très bien. Alors, l'espace Rachi, ça c'est rigolo.
C'est où ça?
C'est rue Broca, c'est le centre juif. Ah. Alors, c'est absolument terrifiant parce que on est fouillé quand on y va d'une manière absolument comme ben si on était des terroristes. Bon, on peut comprendre, mais point, c'est pénible. Hein. Moi, je me souviens.
Ben, quand vous prendrez l'avion pour Tel Aviv, vous verrez.
Oui, ouais. Ben, d'accord. Ben,
la fouille est terrible.
Ben, je suis allé à Tel Aviv, mais il y a quelques années, donc à ce moment-là. Et là, c'est mis en scène par un vieux copain qui est Steph Suissa.
Ah, c'est Steph Suissa.
Là, bon, là, et c'est une pièce sur Goldamer. Bon, voilà, c'est normal, le centre juif qui monte du Goldamer.
Oui, parce que Steph Suissa, il a monté un très grand festival en Israël, hein, qui marche très bien.
Ouais.
Il avait commencé avec Huster et Eric Emmanuel Schmitt. Et puis ensuite, il a continué son aventure. Et vraiment, c'était un très bon metteur en scène. Hein,
ça, c'est un bon metteur en scène.
C'est
un type hyper dynamique, très, très plus sympathique. Bon, je le connais bien.
Et bel homme.
Enfin, il vieillit lui aussi, mais enfin bon.
Qui ne vieillit
pas. Alors, Christophe ne vieillit pas.
Il mûrit.
Alors, au théâtre Essayon, après, moi j'aime beaucoup le théâtre Essayon.
Ah oui, voilà, j'y étais il y a deux jours.
Ah bon, alors, qu'avez-vous
qu'est-ce
vu
que t'as vu?
Non, mais là, je ne peux pas parler, c'est les pièces sur lesquelles je travaille. Donc,
alors,
samedi dernier, il y a Vous qui passez sans me voir de Sébastien Biessy qui a démarré samedi dernier à deux comédiens, Béatrice Biessy et Yves Chamberloire, qui est un spectacle qui avait déjà marché à Avignon il y a...
D'accord, bah, tu me diras tout à l'heure en secret si je dois y aller ou pas.
Non, mais ça raconte quoi?
Alors, c'est l'histoire d'un homme, un comédien qui joue Othello, qui sort de scène, c'est dans sa loge, c'est sa 300e. Il va pour se démaquiller, il découvre une femme dans sa loge qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Marie. Il dit « Mais moi, je vous connais ». Et en fait, c'est un huis clos. Très, très émouvant parce qu'il y a quelque chose qui relie cet homme et cette femme. Et on... Voilà.
N'en dis pas trop.
J'en dis pas plus, voilà.
On en parlera
voilà.
Tout à l'heure.
Ils ne font que 10 dates. Donc je sais comme tu es pris, Jean-Luc, qui est l'autre pareil, d'accord. Qui a démarré mercredi.
Ah, ça sera peut-être pris. Et quel est l'autre spectacle?
Et l'autre, c'est l'Apollon de Bellac de Giraudoux qui a démarré mercredi.
C'est peut-être la meilleure pièce de Giraudoux.
Voilà.
Alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je ne la connais pas.
Ah bah c'est la meilleure pièce de Giraudoux.
Ah oui. Elle est très drôle par son ridicule.
Ah oui, vraiment, c'est une petite pièce courte.
Oui.
Et là, tout à coup, il s'en donne à... Dites-leur qu'ils sont beaux.
voilà.
Bon, et là, c'est absolument charmant.
Donc à voir, parce que c'est très rare.
En tout cas, rien que pour la pièce, moi j'ai pas vu le spectacle.
Ça
va se jouer longtemps alors.
Ça se joue pareil, 10 dates. Ils ont démarré. Ben oui, c'est vraiment des périodes de création. Et Monsieur de Bellac, qui avait été interprété à l'origine par le grand... Il y avait un problème de bégaiement.
Jouvet.
Je parle le grand Louis Jouvet.
Ah bah c'est lui qui l'avait mis en scène.
Oui. Et Giraudoux l'avait écrit pour lui, d'ailleurs.
Oui.
Et là, c'est interprété par le grand Étienne Ménard, qu'on en a vu je ne sais combien de fois au théâtre ces derniers temps, au théâtre Héberto dans Pauvre Bitos, au théâtre La Flèche dans Dérapage. Là, il joue ce monsieur de Bellac et il s'amuse à jouer.
Très bien.
Ça.
On n'a pas dit que c'était bien, mais au moins, on sait de quoi on parle.
Il faut y aller.
Voilà.
Et il y a Marilyn qui reprend.
Et il y a, oui, encore une Marilyn, mais la vraie, cette fois-ci, je crois que ça s'appelle comme ça, mis en scène par Sophie Fort, dont on a parlé tout à l'heure.
Ah oui, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de très bien.
Avec la brillante Alice Darceau, qui interprète Marilyn avec une grâce.
Elle est plus vraie que nature.
Voilà.
Et alors, il faut aller absolument voir ce spectacle, parce que vous avez devant vous une comédienne qui est jeune.
Et là, ça joue longtemps, ça
ça joue longtemps, oui.
Bon, et elle sait tout faire. Elle va se changer 27 fois sur scène, et elle est Marilyn dans ce qu'il y a de dingue chez Marilyn, mais aussi tout ce destin fracassé. Et on est pris d'émotion.
Je préfère Brigitte Bardot, mais enfin, c'est notre problème.
On est pris d'émotion, pas tant parce qu'on adore Marilyn, parce qu'on préfère Brigitte Bardot comme
toi,
vous. Non, moi je préfère Brigitte Bardot comme vous.
Moi pour Alice, je préfère Marilyn.
Mais pour le destin de cette femme
et pour le
féminin qu'elle nous met sur scène. Vraiment, Alice Darceau, elle est éblouissante. Vous l'aviez vue au théâtre de poche, dans les splendeurs et misères du couple de Balzac.
Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord.
C'est elle qui jouait la jeune femme.
Alors, il y a le théâtre Fontaine.
Alors, j'avais un dernier petit conseil à donner sur le théâtre de l'Essaillon, qui est une pièce que j'ai vue la saison dernière, que j'ai trouvée sublime, qui est Double Fracture. Une pièce écrite et interprétée par Jean-Baptiste Darrozet. qui est lui d'habitude un habitué des pièces d'Hervé de Volder. Oui, là, c'est son, il est tout seul sur scène. Et c'est un peu son histoire qui raconte un jeune homme de la campagne qui ne sont plus très bien. Et le décès de sa mère va faire que, bah, il sent encore moins bien entre, il est le petit dernier d'une fratrie que de sœurs. Il n'y a plus que le père qui recherche une nouvelle compagne. Et il décide de monter à Paris, de faire du théâtre. Et voilà. Et ce comédien, qui est aussi l'auteur, est absolument brillant et touchant à souhait dans ce spectacle. Donc je le conseille vivement. Et il joue, je crois, jusqu'au mois de mars 2027.
Ah bah très bien, sauf que c'est un solo, mais enfin.
Oui.
C'est mis en scène par Stéphanie Gagneux, qui a très bien plein de talent. Bon. Alors, on était au Théâtre Fontaine. A Ghost Story, encore un titre anglais. C'est insupportable. Enfin, passons. Vous avez vu ça, non?
Pas encore, je crois que ça m'a...
C'est une pièce de Ladislas Chollat qui va commencer le 15 septembre. Donc, voilà. Ça risque d'être bien.
Bah, Ladislas Chollat, c'est une valeur sûre.
Pour ouais. Mise en scène, oui. Et en plus, il y a une belle distribution.
Valentin Carbonnière, Constance Delay, qui est excellente.
Oui, oui.
Et pour la première fois au théâtre, il y a la comédienne et chanteuse Louane Emera. La famille Bélier.
Oui, oui, c'est ça. Qui a pris un peu de poids. Alors, au Funambule, démodé, vous avez vu ça, non?
Non.
Bon, je ne sais pas ce que c'est. L'importance d'être clair, ça, c'est une adaptation féminine d'Oscar Wilde.
Oui, c'est ça. C'est une jeune compagnie que je connais très bien, c'est des amis. Voilà. Ils se sont amusés à détourner.
À féminiser le
Alors, j'allais dire à actualiser. J'allais dire plus Wilde. Actualiser.
Féminiser, actualiser, bêtifier.
Non, pas bêtifier. Parce que là où ils ont gardé un petit peu le côté théâtre anglais, c'est que le personnage de la grande bourgeoise est joué par un homme.
Donc, oh là là.
Et qui est en plus.
Quel progrès, mon Dieu.
Ce qu'on avait vu avec Paul Aufort, qui jouait, c'était à la Pépinière, et il jouait la pièce, et c'était lui, Paul Aufort, qui faisait la bourgeoise. Et c'était tout à fait remarquable. Je me demande si c'était pas une mise en scène de Thierry Harcourt.
Peut-être, oui.
C'était très, très bien.
On se rappelle quand même que comment il s'appelle, le grand Jean-Laurent Cochet, lui-même, avait joué du Molière, dans Molière.
Il a joué Philamante, mais c'était très mauvais. Ça n'avait aucun intérêt, il se faisait plaisir, le cher Jean-Laurent.
Mais cette jeune compagnie, je les vois évoluer, et je suis très très fier d'eux. Et franchement, même si tu n'aimes pas qu'on bêtifie, qu'on féminise et qu'on actualise Oscar Wilde, par l'humour qu'ils ont mis dedans,
tu as raison, il faut défendre ces poulains. Ouais. En l'occurrence, c'est pouliche.
Ils ont donné le titre en français. Voilà. L'important,
c'est d'être clair.
Voilà.
Alors, ensuite, il y a donc, La Gaîté Montparnasse, il y a toujours l'embarras du choix.
Alors un autre spectacle que j'aimerais conseiller au Funambule, nous avons vu avec Christophe, il s'appelle Mystère à Silent Pool. Qui est une pièce...
Non, c'est au Lucernaire, ça.
Ah oui, zut, pardon, oui, non.
On n'y est pas encore.
Funambule, pardon, mais pas si c'était au Funambule.
Ah, d'accord, mais on en parlera tout à l'heure, parce que je l'ai vu aussi, ça.
Ah.
Alors, l'embarras du choix, pardon, mais je passe souvent dans le quartier.
C'est toujours plein.
Ah, oui. Mmh. Il y a 100 mètres de queue, et j'aimerais saluer le travail d'Azopardi, parce que il y a 13 versions de la pièce.
Oui.
Et ça veut dire que les comédiens, ils ont 13 versions de la pièce en tête, et ils changent. Et donc là,
il faut expliquer un petit peu aux spectateurs comment ça se passe.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un homme qui sort de son bureau, il va rentrer chez lui, et il tombe sur la femme de sa vie. Ils étaient séparés, et ils se retrouvent, et ils s'embrassent, et ils se rendent compte que c'est ça le meilleur amour. Et là, il pose la question à la salle, il dit « qu'est-ce que je fais ? Je pars avec elle ou je rentre chez ma femme ?» Et si la salle dit, il interroge une personne, dit, vous rentrez chez votre femme, il va rentrer chez sa femme. Si la femme dit, vous partez avec la femme de votre vie, il part avec la femme de sa vie.
C'est du théâtre participatif.
Il arrive chez sa femme, parce que j'ai vu cette version-là, il arrive chez sa femme, et là d'un coup, tout s'éclaire sur scène, happy birthday to you, elle lui fait un anniversaire surprise. Et lui, il dit, c'est le moment où je lui dis que je la quitte, ou est-ce qu'il faut que je reste? Monsieur, dans la salle, qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça que l'intrigue avance.
Oui, mais bien sûr, moi je l'ai vu.
C'était Sébastien Azopardi, l'auteur qui jouait le...
C'est un type charmant,
qui jouait le rôle. Et vraiment, c'est... Mais je trouve que c'est merveilleux, enfin c'est léger, c'est...
spectacle où on y va pour s'amuser, voilà.
Exactement.
Voilà, moi j'aime pas ça, mais c'est bien. J'aime pas ça, mais c'est bien.
Voilà. On a parlé de la photo de mon pote tout à l'heure, voilà, ça change la télévision dans cette année pénible.
Il y a la dernière de la pièce de Jean-Luc Lemoyne, Témoin de mariage, qui se termine. Alors ensuite, le gouvernail, vous avez vu ça, quelque chose au gouvernail?
Je ne connais pas ces derniers temps, mais je tiens à saluer le théâtre... tenu par un couple absolument adorable.
Et excellente comédienne en plus, la directrice.
C'est Solange Millot qui était dans Marius, Jean-Philippe.
C'est une très très bonne comédienne.
Exactement, une femme admirable.
Alors, la grande comédie, là, pourquoi les femmes aiment les connards? On connaît, moi j'aime...
c'est des titres de café-théâtre.
Oui, bien sûr, mais en plus là, c'est Patrick Hernandez qui écrit ça, et il a beaucoup de talent. Même chose, Sacrée Soirée, c'est Alil Verdar, qui a plein de talent. Tout va bien se passer, par exemple, moi je l'ai vu. Une autre pièce d'Ali Verdal, je l'ai vu, c'est très drôle, c'est très drôle. C'est du café-théâtre.
Oui, voilà.
C'est sans prétention du tout. Alors, le Guichet Montparnasse, vous avez vu quelque chose?
Pas ces derniers temps, non.
Tout petit théâtre.
Mais oui, il peut y avoir des pépites, des fois.
Oui, c'est de temps en temps. Alors, le Gymnase. Alors, le Gymnase, il va commencer, donc, avec notre ami Huster.
Et Toreton.
Alors, moi, je...
Et Delphine Depardieu.
Oui, aussi.
Et la fille de Pardieu.
Delphine Depardieu, absolument.
Et moi, je l'ai pas vu. Ça va commencer, donc je ne l'ai pas vu. Ce que je sais, c'est que faudra que je fasse attention parce que je suis très ami avec Francis. Et comme il est susceptible comme un pan, donc il faut faire attention aux critiques. Sinon, je vais encore me fâcher avec lui.
Comment
si
s'appelle
j'aime
pas. La pièce?
Ça s'appelle Le discours d'un roi. Tu vois.
Voilà.
Tu connais le.
Mais oui.
Bon, ça peut être pas mal. Hein.
Oui.
Enfin, c'est l'adaptation du film, hein, c'est ça?
C'est ça. Et précisons que c'est Patrick Hautecoeur et Gérard Silveras qui adaptent le film pour le théâtre.
Moi, j'aime beaucoup Hautecoeur et puis Silveras, c'est un talent. Moi, je le connais aussi bien. Il a.
Voilà, mais ce sont deux très bons acteurs.
Ça devrait être pas mal.
Ça devrait être très bien.
Et puis Francis, quand il est bien, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Quand il surjoue pas, il est vraiment bien. S'il est bien dirigé. Alors, c'est Jérémy Lippmann qui met en scène. S'il est bien dirigé, il peut être excellentissime.
Alors, Francis Huster sort un livre qui s'appelle
Un cancre au paradis.
Voilà. Et qui est sur Sacha Guitry.
Ah, très bien. Il sort
chez Albin Michel cette semaine.
Ah, d'accord.
Et il en fait un seul en scène.
Ah, d'accord.
Parce que Sacha Guitry, au mois de janvier prochain, rentre dans le domaine public.
Ben, je sais, je vais faire une intégrale Sacha Guitry au Théâtre
et
du Nord-Ouest.
Donc... dans sa préface, Francis Huster, alors avec des mots incendiaires, dit c'est quand même épouvantable, on va voir maintenant du Guitry dans tout le service public et dans tout le théâtre subventionné alors qu'il crachait dessus en disant que c'était du boulevard et ils vont le monter au motif qu'il n'y a plus de droit d'auteur affilé. Et alors, il veut dans ce texte qu'il va jouer encore une fois et qui est publié chez Albin Michel, il veut donner toute son admiration
et ses lettres de noblesse
à Sacha Guitry. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour les auditeurs, parce que c'est une question un peu intime, mais ça amuse toujours les gens. Vous savez que Francis, il a des cahiers. Et sur ces cahiers, il écrit avec sa grosse écriture lisible aux voyelles joufflues, il écrit une phrase, et chaque ligne est une phrase. Et il me montre ça en disant... chaque phrase, c'est le début d'un roman. Donc, je peux partir de ça et je peux écrire très, très vite. Et chaque jour, chaque heure, il a toujours ce cahier avec lui. Il écrit dessus. Alors après, il stabilobosse en fonction des couleurs pour donner l'ensemble du texte. Et vous avez donc un texte publié chez Albin Michel avec beaucoup d'aphorismes, avec des phrases définitives, parfois des alexandrins. C'est un texte court, et cependant, vous le lisez longuement, parce que vous posez le livre, vous croisez les bras et vous dites « c'est vachement bien fait ». Alors, on va voir avec Gourmandise ce que ça donne sur scène, mais en tout cas, lisez ce livre,
donc
Le Cancre au Paradis,
ça sort
chez Albin Michel, c'est sorti là, cette semaine.
Ah, d'accord. Hier. Je vais lâcher, tiens, très bien. Non, mais c'est un type très bien, Francis. Le seul problème, c'est que souvent, il a un discours sur le théâtre qui est absolument magnifique. Mais quand il met en scène ou quand il joue, souvent, il ne met pas en pratique exactement ce qu'il dit. Alors, il surjoue un peu.
Alors,
la dernière fois que je l'ai vu
sur scène, c'était sur En Thérapie, qui se joue au Théâtre Antoine.
Ouais, mais quelquefois, il est formidable.
Je l'ai trouvé très soft, très posé.
Et puis aussi, en vieillissant, souvent, les comédiens deviennent vraiment... Ils n'ont plus besoin de surjouer. Quoi.
Et là, il y a du beau monde quand même sur scène avec eux.
Il y a Philippe Toreton,
Delphine Depardieu...
Voilà. Pierre Osseda, Urbain Consolier, qu'on aime bien.
Il a une carrière merveilleuse. Quand on pense que, on le disait, le nouveau Gérard Philippe.
Oui, oui, bien sûr.
Et quand il enlevait ses lunettes et qu'il plissait ses yeux parce qu'il est myope comme c'est pas possible, il était vraiment Gérard Philippe, l'incarnation. Quand il a joué Lorenzaccio, souvenez-vous, à la Comédie Française. Mais les femmes se pâmaient et les gens étaient fous de bonheur. Et alors ensuite, il a fait pas mal de cinéma.
Avec des rôles
plus ou moins. Plus ou moins bon, mais il a une carrière énorme et il a un talent fou, une vraie connaissance, pas que du théâtre, mais aussi du PSG.
Ben, ça va permettre de faire le...
C'est vrai, parce qu'il
adore le football, c'était une blague de Christophe, c'est vrai que...
C'est parce qu'il y a une anecdote avec Francis, quand on l'a reçu à la radio. On a reçu Francis à la radio et je stressais comme c'est pas permis d'avoir ce grand monsieur face à moi.
Radio Notre-Dame, hein, pour préciser.
Et avant que je rentre dans le studio, Christophe lui dit, et là Francis Huster me regarde, il me pointe du doigt, il me dit, vous êtes fan de l'OM? Je lui dis, non monsieur Huster, je suis Asport avec le A privatif. Il dit, alors on va pouvoir faire l'émission ensemble.
Et surtout, il a ouvert toutes les portes des studios en disant, je suis sûr qu'il y a un fan de l'OM. Il dérangeait les émissions en disant, je suis sûr qu'il y a un fan de l'OM.
C'est énorme de faire ça.
Oui, c'est bizarre. Bon, alors, on va faire le lien, parce qu'il y a, au Théâtre Héberto, il y a le site pète un câble.
Oh, mon Dieu.
La mise en scène de Caroline Vigneault, alors...
J'en ai entendu tout et n'importe quoi. En fait,
ça n'a pas commencé encore. Hein,
non, mais ça s'est joué avant. Et ça s'est même joué à Avignon cet été. Ça a été un carton. Mais en fait, j'entends à boire et à manger dessus. C'est-à-dire, en fait, c'est une version du CID avec des jeunes comédiens pas connus qui sont absolument excellents, il n'y a rien à dire, mais réécrit.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure de Molière.
Ouais, mais là, c'est réécrit de A à Z. Encore chez Tigrane Mkhitaryan.
Et pas pour une volonté pédagogique, pour une volonté de se marrer.
Oui, de se marrer.
Moi, je trouve qu'on touche pas aussi.
Voilà. Et si vous avez regardé la cérémonie des Molières la dernière, ils ont fait un extrait. Alors, autant les jeunes comédiens sont absolument talentueux, il n'y a rien à dire. Mais là, clairement, sur le texte, même seul truc positif, allez, à la rigueur, c'est que la musique du spectacle a été écrite par, parce qu'il y a du rap dedans, c'est écrit par MC Solar, qui est un excellent parolier, un excellent artiste.
Je te crois sur parole. Alors, au Théâtre de la Huchette, il y a toujours...
Mais attends, Héberto, il y a un spectacle qui va commencer, là, qui est très important.
Il y a une reprise.
Ah oui, il va y avoir la nouvelle pièce de Pierre-Olivier Scotto, Viva Verdi, et c'est Raymond Acquaviva qui va jouer Verdi
au
sur scène.
Héberto.
Au Théâtre Héberto.
Raymond remonte sur scène, ça c'est bien.
Tout à fait, oui.
Ah bah très bien. Et puis alors, à la Huchette, donc, la cantatrice chauve la leçon, ça se joue depuis des années et des années, on en a parlé et reparlé.
On se lasse pas.
Si, on se lasse.
Non, parce que c'est pas toujours les mêmes comédiens, donc ça fait plaisir de les voir.
Non, mais voilà. les pièces sont...
Il faut le voir une fois tous les 10 ans.
Oui, c'est comme disait Jacques Nerson, ça se visite comme la Tour Eiffel.
C'est
exactement ça. Sa formule était parfaite.
Ce qui est très beau aussi, c'est quand on est rue de la Huchette et que les touristes sont en train de visiter Paris, ils s'arrêtent devant le théâtre, ils regardent les trucs. Oh, it's here. Yes, it's here. Come.
Non, on ne parle pas anglais ici.
Oui, mais je veux dire, mais c'est des touristes anglais.
J'ai compris.
Voilà.
Mais aussi des gens de Namur qui étaient venus.
Ils sont venus une fois, pas deux.
Ils étaient furieusement sympathiques et furieusement.
Ils ont attendu la cantatrice chauve, mais ils ont trouvé ça bizarre. Elle avait des cheveux.
C'est ça, voilà. Donc, ensuite, le théâtre Le Pic.
On va se faire des ennemis avec les gens de Namur.
Oui, enfin. Non.
On les aime.
Toi, ils ont de l'humour. Alors ensuite, il y a au Théâtre Le Pic, il y a toujours là. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, qui était excellent. C'était très drôle, vraiment. Une vraie réussite. Mm-hmm. Changer l'eau des fleurs, c'est aussi une
ça marche toujours.
Je me demande si elle a pas fêté la 2000e ou quelque chose comme ça. Changer l'eau des fleurs.
Et puis il y a une nouvelle création là. Pourquoi les gens qui s'aiment, c'est assez joli d'ailleurs le titre.
Sont-ils un peu toujours les mêmes?
Voilà.
Sauf que ça s'écrit S-E-M-E-N-T.
La culture de Christophe. Donc, c'est à partir du 9 septembre, donc c'est bientôt. Hein. Vous ne l'avez pas encore vu, vous savez pas de quoi il parle.
J'ai beaucoup entendu parler parce qu'ils ont fait un Avignon avec la saison dernière et ils étaient dans le même théâtre où moi je travaillais. Et ils ont eu plusieurs prix à Avignon. C'est une jeune compagnie qui avait adapté il y a quelques années déjà Electre d'une manière très actualisée, qui s'appelait avant Les Mots d'Electre, MAUX, et ça s'appelait ensuite Heureux les Orphelins. Et là, c'est une nouvelle pièce totalement contemporaine et j'ai entendu tellement bien que je pense que c'est une pièce de qualité. En tout cas, les comédiens en eux-mêmes que j'ai déjà vus sur scène dans la pièce précédente sont de très bons comédiens, donc je pense que ça peut devenir
quelque chose de bien.
Ça peut, enfin, c'est quelque chose de bien, mais ça peut devenir. On va beaucoup en entendre parler, je pense.
Voilà, on va faire, on va faire une petite pause.
Ça commence le 9 septembre, mais vous savez que nous sommes le 4.
Ah oui. Voilà. On va faire une petite pause parce que notre chère radio ici a besoin de sous et donc c'est important d'en parler. Voilà.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, nous reprenons, nous en étions au Lucernaire. Voilà, alors, Lucernaire.
Oh, on va alors, pourquoi dire.
Madeleine Béjart, ça va être avec, jouée par Isabelle Andréani, qui est une comédienne absolument extraordinaire. Dans une enceinte de Xavier Lemaire, la pièce encore, on parlait de Scotto tout à l'heure, c'est aussi une autre pièce de Pierre-Olivier Scotto. Vous ne l'avez pas vu encore,
si. Ah, si, 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 il faut y aller juste pour la performance d'Isabelle Andréani, qui est une comédienne absolument extraordinaire. Son cœur simple était sublime, et là, elle n'interprète pas, elle est Madeleine Béjart, elle est absolument formidable.
Ah oui. Alors qu'elle n'est pas rousse.
Oui.
Et alors, mais oui, et c'est toute la question de Madeleine Béjart, qui était-elle? Comment elle va accoucher de Molière à travers Poquelin, et toute son histoire.
Elle va surtout coucher. Aussi. Avant d'accoucher.
Aussi. Alors, moi je trouve que Scotto est un peu faible sur un certain nombre de points.
Oui, mais toi, Christophe est un spécialiste de Molière, c'est pour ça qu'il dit
voilà,
ça aussi.
Voilà, je connais vraiment bien...
Bah oui, par cœur, t'as écrit un livre sur Molière.
Mais il a bien connu Molière aussi,
bien
d'ailleurs.
Bien cette histoire, le fait que je suis Molière.
Ah, oui.
Non, blague dans le coin, il y a quand même... pas mal de défauts historiques ou psychologiques dans la pièce. Toutefois, Isabelle Andréani nous emporte complètement et on passe une heure et quart avec elle et on passe d'émotion en rire. Et derrière tout ça, c'est un grand et magnifique credo au théâtre, à la planche, au texte, à la mémoire, à la situation. Et de ce point de vue-là, c'est une pièce à voir.
Bon, ben, formidable. Il y a aussi un Hemingway, là encore, des solos. Ensuite, il y a, donc, on en parlait tout à l'heure, Dolto, lorsque Françoise paraît, hein, c'est le truc Eric
Sophie Buff. Forte.
Sophie Forte, voilà.
À voir, absolument.
Voilà, tu l'as vu, ça?
Oui, c'est un spectacle qui a 2 ou 3 ans, déjà.
Oui, en même plus, et parce que moi, je l'ai vu en 2021, il y a au moins 5 ans.
J'ai dit tout le bien que je pensais tout à l'heure de Françoise Dolto.
Moi, je l'avais vu au Lupic. Et elle avait fait un carton à Avignon aussi. Oui. Et il est certain que Sophie Forte, elle est Françoise Dolto.
Oui, mais c'est une très bonne comédienne.
Elle est brillante.
Incroyable. C'est une ancienne comique. Enfin,
bah, de la bande à Ruquier.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Dans le rayon coin.
D'ailleurs,
non, c'était pas le rayon coin.
Je sais plus. D'ailleurs, on a oublié de le dire tout à l'heure, mais quand on était à Les Saillons, elle va reprendre son seul en scène autobiographique.
Oui, oui, tout à fait.
Qui s'appelle La Valise à Les Saillons.
Absolument, oui. Alors, ensuite, il y a La raison du plus fou, le Rousseau, Diderot.
Bon, Grégory Baquet.
Ouais. Alors, c'est Grégory Baquet, moi j'y vais cette semaine.
Ah oui, d'accord.
Je crois que ça va être très bien.
Oui, bah, Baquet, c'est Jean-Gérard.
Parce que c'est Grégory Baquet, La raison du plus fou, c'est à voir. Enfin, le titre est déjà...
Oui.
Et puis, si ça permet de revisiter ou de donner envie de revisiter des classiques,
oui,
allons-y.
C'est l'opposition entre Diderot et Rousseau, donc tout ça, ça peut être intéressant.
Oui.
C'est intéressant,
oui,
c'est
oui.
littéraire, mais c'est
mais
intéressant.
Oui, totalement.
Alors, il y a ce mystère à Silent Pool. Mm-hmm. Agatha Christie a disparu. Alors, toi, tu l'as vu, moi, je l'ai vu.
Moi aussi.
Oui, moi aussi. Toi,
donc, on va pouvoir en parler. Alors,
voilà.
Alors, je commence, c'est oui. ça, c'est moi qui vais commencer parce que je suis le plus gentil.
Parce que tu es le plus gentil, voilà.
Oui, bah, bien sûr. Alors moi, cette compagnie, c'est leur troisième spectacle que je vois, puisqu'ils avaient déjà joué au Funambule Le Barbier de Séville.
C'est une manière de détourner le...
Voilà,
c'est comme ça que j'ai découvert.
Non, mais c'est comme ça que je les ai découverts. Ensuite, ils ont fait Léocadia.
Ils commencent par créer le Lampadier.
Voilà, exactement.
Au Funambule
de créer l'Empathie
en Lucernaire, donc ça a évolué. Et là, ça change parce que Mystère à Silent Pool, c'est une création... deux, c'est-à-dire vraiment, ce sont trois des comédiens de la compagnie qui ont écrit cette pièce. Et moi, qui suis un fan d'Agatha Christie, quand ils m'ont dit, voilà ce qu'on va créer, je leur dis, par contre, je vous préviens, je vais être intraitable avec vous, je vous tiens, je vous attends au tournant quand je vais venir découvrir ce spectacle.
Ils ont eu peur alors.
Bah, ils savent que je peux avoir le stylo assassin quand je suis surtout pour un fan d'Agatha Christie comme moi. Et j'ai été agréablement surpris déjà par la mise en scène. Non, la mise en scène est très belle, je trouve, parce que voilà. Bon, après, voilà, c'est des décors qui se déplacent comme ça et tout pour aller d'un point à un autre. Et pour une jeune compagnie, je trouve qu'ils se sont très, très bien débrouillés pour créer une fiction autour de ce fait réel qui est la disparition d'Agatha Christie. Bon. Les comédiens sont...
Alors, on va faire ça progressivement. Toi, ça t'a pas trop emballé?
J'ai passé un bon moment, je ne connaissais pas cette histoire, en effet, d'Agatha Christie.
La disparition.
Qui avait...
Bon, quand même, tout le monde connaît.
Ben non, mais vous savez, moi je suis plutôt Gaston Leroux.
Il a connu Molière, mais pas Agatha.
Voilà. Mais on passe un très bon moment.
On passe
un très bon moment, et avec aussi pas mal d'émotions, parce que la comédienne qui incarne Agatha Christie, dans la fin de la pièce... arrive avec beaucoup de majesté, de simplicité. Elle est très touchante. Mmh. Et elle donne envie de relire Agatha Christie. Donc ça, c'est une bonne chose.
Bon, bah alors voilà, de contraint, parce que moi, j'ai trouvé ça d'une banale. Mais alors, j'ai trouvé ça un peu con-con.
Ah ouais.
Oui, je trouve ça sans aucun intérêt. On attend quelque chose de très fort avec le... Et puis tout ça, ça fait pchit, c'est pas... Enfin, vraiment, alors là... Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Les comédiens sont pas mal, c'est pas mal. Hein, c'est pas, voilà, mais enfin, bon... je trouvais qu'avec un sujet pareil, ils auraient pu faire mieux. Bon, enfin, voilà. Ensuite, il y a le Schpoons. Vous avez vu, non?
C'est une reprise.
Bon, très bien.
Ça a été joué...
Ah oui, bah, c'est encore avec Delphine Depardieu. Elle est partout, alors. Parce que là, c'est à
19h. Elle met en scène seulement, Delphine.
Elle met en scène. Ah oui, d'accord, elle
met
en
scène. Ça a été joué à Avignon. Il y a 2 ans.
Oui, c'est une reprise. Moi, je l'ai pas.
Et c'est tout à fait formidable. Parce que c'est cette compagnie, vous savez, qui avait déjà joué Pagnol. Ils avaient joué
Naïs.
Oui. Qui était remarquable.
C'était,
et là,
c'était au Poche Montparnasse, non, c'est ça,
non, c'était au Lucernaire.
Au Lucernaire, oui. Et... Ah oui, non, je l'avais vu. Oui, là, pareil, j'étais pas emballé non plus.
Et là, le Schpoons, moi, je pensais que ça avait beaucoup vieilli. Il le joue dans son jus. Dans les costumes de 1930 ou de par là, et on y croit, et on marche, et on voit ce pauvre monsieur qui est totalement mythomane, mégalomane, fou, et dont tout le monde se moque. C'est un type qui rêve de faire du cinéma, et il y a une équipe de cinéma qui passe par là, et la jeune, et il parie entre, tiens, on va lui faire croire qu'il va jouer avec nous. Et alors, ils lui montent le bourrichon, ils lui font croire qu'il va signer un contrat pour devenir la vedette du spectacle. Lui, se déchire avec sa famille.
Oui, mais qu'est-ce que ça apporte de plus que le film, qui était très bien?
Ah non, parce que là, c'est vraiment incarné.
Oui.
Vous êtes au théâtre. Mmh. Et on voit comment les sentiments changent et comment cette jeune femme se moque de ce pauvre garçon et finalement va l'aimer.
Oui,
et
bah, ça, bon.
Et puis, arrive dans le bureau du directeur en disant « Je viens signer mon contrat », mais écoutez, monsieur, vous êtes qui? Et les autres derrière qui se fendent la gueule en disant...
C'était Fernandel qui jouait.
Ouais, on l'a bien eu. Mais on est pris, alors nous, de pitié, de compassion, d'empathie. Et au bout d'un moment, le truc va se retourner. C'est très bien fait. Et puis alors, j'aime la langue de Marcel Pagnol, j'aime sa tendresse,
oui.
J'aime ses répliques qui fusent. Non, c'est vraiment un spectacle à voir.
Ce que je trouve de plus fort chez Pagnol, c'est sa trilogie, là. Le château de mon père, ça c'était formidable. Le temps des secrets, ça, c'est ce que je préfère.
Et Arthur Cassia, qui était un brillant Toine déjà dans Naïs, dans le rôle du Schpoon, c'est absolument brillant. Il montre encore une fois qu'il est un comédien talentueux.
Alors, La Manufacture des Abbesses, vous avez vu quelque chose, non? Bon, ce moment, il y a La Solitude d'un acteur de pipe show. Mais comme c'est mis en scène par Thierry Harcourt...
Ça doit être élégant.
Ça doit être pas mal, oui. Très bien, je ne commenterai pas. Alors, ensuite, Le Marigny, Les Aventuriers de Minuit, une pièce de Julien Lefebvre et de Florence Lefebvre. Alors, j'enseigne Élie Rapp. Tu l'as vu, non ?
Pas encore vu, parce que ça démarre tout juste, mais ça fait partie de...
Oui, c'est mis en scène aussi par Ludovic Laroche, qui est un garçon absolument charmant et bon comédien.
Mais à coup pas pour tout de suite, Jean-Luc, parce que j'ai utilisé des termes anglais. Il y avait une trilogie qu'avaient écrit Julien et Florence Lefebvre, qui était le cercle de Whitechapel, Les Aventuriers de Minuit, qui se passaient dans le train, et le dernier, c'était l'heure des assassins.
Ah oui, c'est la suite de ça.
C'est pour ça que j'allais dire anglais, un spin-off, c'est-à-dire c'est un dérivé. Il n'y a plus les trois personnages principaux qu'on avait dans cette trilogie, il n'y a plus que Arthur Conan Doyle, qui est interprété par Ludovic Laroche. Et là, on est plus dans un truc, dans une pièce d'aventure, parce qu'il va avoir comme partenaire d'aventure Jules Verne. Et qui sera interprété par Pierre-Arnaud Join, qui, en fait, c'est les mêmes comédiens de spectacle précédent.
Ce que t'es pas mal du tout, là.
C'est quelque chose différent.
Moi, j'avais trouvé ça mieux que la Agatha Christie dont on parlait.
C'était autre chose. Mais là, les trois pièces écrites par Julien et Florence Lefebvre sont absolument excellentes.
Quand se retrouver, de se retrouver au Théâtre Marigny, c'est vraiment progression professionnelle, dites donc. Alors, les Mathurins, dernier coup de ciseau, c'est du...
Azopardi, ça marche toujours. Et ça fait quoi ? Ça fait 15 ans que ça dure ?
Ouais, 15 jours, voilà.
Et
Même plus.
Donc, c'est un crime, on refait la scène.
C'est du théâtre participatif.
C'est du théâtre participatif.
Comme Jean-Luc déteste.
Voilà.
Alors, il va y avoir Roberto Zucco, c'est une pièce la pièce de Coltès. Je trouve que c'est une de ses meilleures pièces. Moi, je déteste le théâtre de Coltès, mais je trouve que c'est pas... Et puis il y a un truc qui a l'air d'être assez rigolo, les tribulations d'un musulman d'ici. C'est un one-man show, évidemment, un solo, qui est Ismaël Saïdi qui doit raconter sa conversion, mais comme beaucoup de musulmans. Et puis alors, il y a la pièce au studio Mathurin. Là, j'y vais samedi, normalement, mis en scène par notre chère amie Anne Coutureau, qui avait participé au début de l'émission avec moi. Les Beaux, vous l'avez vu, non ? Parce que c'est une reprise, je crois. Moi, j'y vais samedi, donc je vous dirai.
Pas vu, mais c'est une pièce qui a eu un gros succès au théâtre La Flèche.
De toute façon, elle est bourrée de talent, Anne. Et puis, Léonore Confino, c'est un bon auteur, donc ça devrait être. Ouais. Alors, il y a Juliette, Victor Hugo, Mon Fol Amour, ça je l'ai vu, bon, je n'avais pas été emballé. Je trouve que ce truc sera. Il y en a marre sur les trucs.
Ça fait longtemps qu'il joue.
Oh, Juliette Drouet, bon, ça va. On n'apprend rien de plus que ce qu'on sait.
Il y a moyen de faire une très belle pièce avec Juliette Drouet, mais ça ne doit pas être un seul en scène.
Ce qu'il avait tenté, je dis bien tenté, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas si ça marche ou pas. Julie Depardieu, au studio Marigny.
Alors, il y a aussi le Novecento qui a repris, là. Bon, c'est très bien. Ça, c'est la pièce d'Alexandre Barrio, on la connaît. Le texte est tellement beau qu'il faut vraiment être nul pour se planter, quoi.
Perso, je pourrais pas aller le voir depuis que j'ai vu l'excellent André Dussolier le jouer.
Mais oui,
absolument extraordinaire.
Mais ça a été fait, je sais pas, 10 fois, quoi.
Mais
c'est tellement, le texte est tellement fort que bon, il faut vraiment être nul pour se planter, quoi. Alors, les Mélos d'Amélie, il y a toujours Ce soir ou jamais, ça doit faire des années aussi, c'était pas mal, c'était rigolo. Oui.
Juste pour dire, au studio Mathurin, très prochainement, je crois, il va y avoir une brillante comédienne qui va reprendre son seul en scène. Qui est la talentueuse Cécile Coves, qui va reprendre pour plusieurs dates son spectacle La Trajectoire des Gamètes, qui s'était joué à la Manufacture des Abbesses, au Funambule, qui a cartonné à Avignon, et elle va le reprendre au studio des Mathurins. Et également, bientôt, il va y avoir le nouveau spectacle de Judith Margolin, qui s'était fait connaître en Jean Mudit Monrovitz, la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe. Elle va démarrer son nouveau spectacle qui s'appelle La Folle Histoire de la Femme Pailletée.
Bon, écoute,
non.
Bien. Cécile Coves, il faut aller voir,
Bonne comédienne.
C'est une très bonne comédienne.
Alors, au Mélo d'Amélie, il y a toujours la pièce de Punzano, là, Ce soir ou jamais, c'était pas mal du tout, c'est une comédie, bon, voilà. Et puis là, il a écrit une nouvelle pièce qui va commencer le 5 septembre, qui s'appelle Merci au suivant. Bon, vous ne l'avez pas vu, évidemment, ça n'a pas commencé. Alors, à la Michaudière, ça me sera difficile d'y aller puisque je le joue là. C'est le malade imaginaire. Je joue à Argan en ce moment, donc je ne peux pas.
Oui.
Mais Francis Perrin, ça devrait être pas mal. Hein. Francis, tu l'as vu, non?
Ben non, ça n'a pas démarré, je crois.
Pas commencé, parce que t'es sceptique.
Ben, je voyais des affiches dans le métro.
Nathalie Cerda, Éric Logérias, il y a quand même une bonne distribution. Hein.
Ouais, ouais. Moi, je vais aller voir, évidemment.
Ben, écoute, vous me direz, parce que là, moi, c'est un peu... si j'y vais par plaisir, mais pas pour travailler, pas pour faire de critiques, parce que, évidemment, je n'ai pas... Le joint depuis 2 ans, 3 ans... Hein. Donc je...
Mais je pense, vu l'amour qu'a Francis Perrin pour Molière, pense qu'il va rester le plus droit et le plus fidèle possible. Je pense que c'est vraiment pour finir sa carrière.
Je pense que ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas
mal. Belle déclaration à Molière que de jouer le malade.
Alors, le Montorgueil, c'est toujours... Bon, vous n'avez pas vu rien au spécial, puisque c'est toujours des petites comédies comme ça. Alors, le Montparnasse. Ensuite, il y a la nouvelle pièce, là, une pièce de Fred Proust, avec un nom pareil... Ça peut être... Bon, côte à côte avec Daniel Rousseau et Laurent Gamelin. Bon.
Voilà.
Alors, tu l'as vu ?
Non, je le vois la semaine prochaine.
Bon, ben, tu me diras.
Ça fait partie des événements un peu de cette rentrée, parce que l'affiche est bonne, le théâtre est merveilleux, et voilà, ça va faire partie pour nous un peu des incontournables.
Dans les incontournables de la rentrée, on en a parlé en début d'émission, le sens de l'humour, on a quand même une belle distribution, comme Claudia Tagbo, Florent Père, Ariel Mallet,
Élise
Diamant. Ça, c'est
vous, ça ? On avait parlé au Théâtre Antoine, c'est la pièce de Sacha Judasco et Fabrice Dognon.
Ah oui, tout à fait.
Et ils ont... Très bon, des 4 gros comédiens sur scène pour cette pièce-là.
Alors, il y a une reprise de La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, vous l'avez vu, c'est le truc de la guerre, je crois que ça vous avait plu, non ?
Ah oui, c'est très bien, ça change.
Ça fait complet à Avignon, c'est un spectacle qui marche très bien. Il faut saluer
Bernard Malaga,
qui est un excellent comédien et qui fait un duo avec Charlotte Mazneff, remarquable dans cette pièce. Il faut saluer aussi, c'est ce que vous n'aimez pas trop, mon cher Jean-Luc, mais la scénographie, avec des incrustations, oui, mais incrusion, c'est pas mal, mais des incrustations vidéo, mais qui donnent un décor tout à fait incroyable, vivant et qui nous emmène, qui nous emporte, et ça, c'est une jolie performance technique. Ensuite, le propos est assez étonnant. C'est une femme qui refuse que Rabbi Jacob sorte au cinéma, puisque c'est la femme du producteur.
Ah oui, c'est ça, je connais ça. Oui.
Et elle va prendre en otage.
C'est à partir d'une histoire vraie.
Absolument.
Hein. C'était la femme de Toscan
du Cravel.
Non, de Cravel, c'est ça. Voilà.
Et c'était la femme du producteur, Georges Cravel, qui ensuite.
Et puis elle a été tuée par effectivement.
Et alors, elle a été tuée par les flics, puisque le fusil qu'elle avait avec elle était déjà rangé dans son sac au moment de l'assaut de la police. Donc, ça se termine évidemment par une note un peu émouvante, où on se dit, mon Dieu, cette pauvre femme qui par amour a fait ça et par conviction, et elle est morte flinguée par les flics, et c'est une erreur judiciaire. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Toutefois, le spectacle se voit avec bonheur, et l'interprétation vraiment de Bernard Malaka et de Charles Mazneff vaut la soirée.
Et à féliciter également Julien Siguiana qui interprète Louis de Funès ce spectacle.
Oui.
Et jouer de Funès, c'est quand même quelque chose, c'est un travail très très laborieux. J'avais peur, moi, que ce soit vraiment dans les mimiques et dans le surjeu, dans l'exagération.
Travail laborieux, fais attention, hein, parce que ça peut dire le contraire de ce que tu veux dire.
On va dire que c'est quelque chose. Enfin,
tu veux dire brillant.
Alors, il est totalement brillant, mais quelque chose de...
De travailler.
Enfin, travailler, mais d'exagérer.
Voilà.
Avec les mimiques de Funès et tout, ça pouvait aller vraiment dans la caricature.
Il est sur scène, tout à fait au début de la pièce, et on se dit, mais non, il ne va pas faire Louis de Funès. Enfin, et il va recréer, il va incarner Louis de Funès. Et petit à petit, on voit ce Louis de Funès qui commence à jouer pour Rabbi Jacob, pour tourner. Il emmerde tout le monde pour ses contrats. Enfin, il est terrible. Et il y a une scène où il y a un monologue où là, il démarre sur une tirade où il est Louis de Funès. Et à la fin, la salle applaudit. Parce que la salle applaudit pour la performance
du comédien,
technique et d'incarnation du comédien.
Julien Siguiana qui est absolument brillant.
Alors, il y a le plancher, hein, vous avez vu ça ? pièce de Perrine de Kerouac, non?
Où ça? Toujours au Mathurin?
Nicolas...
toujours au Montparnasse, pardon?
Oui, au Petit Montparnasse. Nicolas est mis en scène par Frédéric Cherbeuf, avec Nicolas Degrémont et Zoé Soba. Bon, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas. Et puis, il y a le porteur d'histoire. Bon, ben ça, c'est...
Alors, le porteur d'histoire...
C'est du Michalik.
Oui, mais c'était le premier Michalik.
Oui, c'était le premier. C'était pas mal du tout.
C'était le premier Michalik.
Et ensuite, il fait tout pareil.
Et il y a une fraîcheur extraordinaire. Ouais, ouais. Ça a été un coup de génie. Il a inventé une nouvelle écriture à travers ce spectacle.
Oui, puis ensuite, pareil, c'est un peu le même problème que, dont on parlait tout à l'heure.
Alors, c'est à voir tous les 10 ans.
Ouais.
Je l'ai vu récemment parce que j'ai emmené une scolaire qui était en seconde et qui n'était pas tout à fait habitué au théâtre et qui ne comprenait pas vraiment le sens du théâtre. Et je lui ai dit, on va aller voir ça sur un plan pédagogique. Elle a été sans voix à la sortie. Parce que lorsqu'on voit les 5 comédiens qui viennent saluer à la fin, et on se dit, il n'y a pas eu de décor, ils ne sont que 5, mais on en a vu 40 et on a fait le tour du monde. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est de la magie et c'est ça, le théâtre.
Oui, c'est pas ça le théâtre, mais c'est une forme de théâtre.
C'est une forme de théâtre. Et je trouvais que sur un plan pédagogique, pour initier au théâtre, ça vaut vraiment le coup.
Non, mais le problème de Michalik, moi j'aime, c'est un type charmant en plus, il a beaucoup de talent, et voilà, mais on l'a trop imité maintenant, quoi. On voit trop de pièces façon Michalik.
Bah, il a créé un style de mise en scène, que maintenant on voit de plus en plus.
Qu'on voit de plus en plus, c'est un peu pénible.
C'est une sorte d'inventeur, il a créé un petit truc.
Bah oui, bien sûr.
Vous voyez ? De l'émotion.
Un petit truc, comme dirait
un
Céline.
Petit truc. Voilà, ça y est, voilà. Vous avez la référence.
Bon, alors il y a le Nord-Ouest, on n'en parlera pas.
Si.
Pourquoi ? Parce que tu as vu des choses là-bas ?
Ah non, je pensais le Nord-Ouest parisien.
Non, je parle de
mon Nord-Ouest.
Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment ?
Non, on n'en parlera pas.
Donc vous allez faire une intégrale Guitry pour 2027 ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Et il y aura, comme pour Shakespeare, il y aura un ticket abonnement.
Oui, exactement pareil.
Où on va pouvoir voir autant de fois de Guitry qu'on veut.
Exactement, tout ce qu'on veut.
Et en payant combien ?
C'est 150 euros pour un an. Voilà.
Donc pour 150 euros, pour un an, on voit toutes les pièces de Guitry.
Toutes les pièces de Guitry.
Ce qui est idéal comme cadeau de Noël.
Ah, ça c'est sûr, mais ça ne va pas commencer là, ça va commencer... Parce qu'il n'est pas encore complètement dans le domaine
public. En
septembre,
je pense, 2027.
Oui, je crois que c'est voilà.
D'accord.
Dès qu'il est dans le domaine public, on va le faire.
Bon, à ce moment-là, vous nous sifflez, parce que, comme cadeau d'anniversaire, offrir tout Guitry, 150 euros dans une enveloppe, c'est formidable.
Voilà. Est-ce qu'on va voir Hortense a dit « Je m'en fous » ou « On purge bébé » dans cette intégrale, Jean-Luc? Je sais, c'était juste pour vous énerver tous les deux, je sais très bien. Ce sont des pièces de Fedo. C'est juste pour énerver les
mais
deux...
Mais on a fait une intégrale Fedo, donc c'est parfait.
Mais... Qui allez-vous prendre, par exemple, pour Faisons un rêve ?
Mais je ne sais pas encore.
Mais c'est un boulot énorme de prévoir la distribution de toutes les pièces. Il y en a combien ?
Je crois qu'il en a écrit, je ne sais pas, 40 ou un truc comme ça. Je ne sais pas exactement, il faudra regarder.
Et il y en a qui ne se sont pas joués depuis Mathusalem.
Fedo, c'est 41.
Oui.
Il y en a plein, il y en a qui se sont pas joués depuis très très longtemps.
Mais c'est pareil, elles sont, il y a quelquefois des pièces. Par exemple, j'ai lu récemment sa pièce sur quand il a été en procès, tu sais.
Oui.
Il a été accusé de collaboration. Mais la pièce, ça commence formidablement, puis après ça s'écroule, mais alors, ça devient très mauvais, quoi. Donc,
le théâtre de
Guitry, il faut... Voilà, faut couper, faut serrer.
Mais vaut le coup de monter une intégrale si inégale ?
Écoute, de toute façon, on fera beaucoup de lectures. Hein. On va pas comme je l'ai fait avec Fedo ou avec La Biche. Donc, tu peux pas monter tout. Ouais. Mais en revanche, tout va être en lecture. On fera des lectures des pièces. Il faut faire des coupes. Hein,
j'ai hâte de voir la lecture du mot de Cambronne.
moi, c'est une des meilleures pièces, le mot de Cambronne.
Ah oui, je sais, mais je sais pas si vous allez la mettre en scène ou la lire.
Je pense que je la mettrai moi-même en scène, parce que je l'aime beaucoup. Alors, aux nouveautés. Vous avez Berlin, la reprise, il ne faut pas rater ça, c'est excellent.
Excellent.
À l'Odéon, une trilogie, Cadet la Força, je ne sais pas ce que c'est.
Moi non plus.
Bon. Au Théâtre de l'Œuvre, c'est la reprise de Chatouille, ça c'était très bien.
Magnifique.
La reprise Les Deux Frères et les Lions, ça aussi je l'avais vu, c'était pas mal du tout.
Pas vu.
Ça c'était bien ça.
Et au Théâtre de l'Œuvre, il y a
Hitchcock et Marie-Rose,
oui.
Voilà.
Et ça c'est bien. Christophe Delon, ça va commencer.
Alors je l'ai vu à Avignon.
Ah d'accord.
Nadir aussi ?
Oui, tout à fait.
Et c'est bien alors ?
Alors, pour moi...
Il a fait l'amour, hein, vous n'avez pas vu ça.
Oui, parce que le...
Comme c'est pas filmé...
Alors, la mise en scène est absolument sublime, je trouve. Bon, après, pareil, il y a des incrustes de vidéos, donc ça va pas plaire à Jean-Luc.
Oui, mais on est quand même dans l'univers du cinéma avec voilà. Hitchcock. Donc, ça vaut le coup d'avoir des inclusions de cinéma, du cinéma d'Hitchcock, au moment où il parle.
Mmh. Et moi, ce qui m'a vraiment subjugué, c'est la performance d'Éric Pratt, qui est un excellent comédien, que j'avais déjà vu à plusieurs reprises au théâtre. Et là, il est un magistral Alfred Hitchcock.
Je trouve. Bon,
face à Mélanie Page, qui joue Tippi Hedren, et Marjorie France, qui était très bien dans Merteuil au Lucernaire, il fait une performance absolument géniale, je trouve,
bon,
dans le rôle d'Hitchcock.
Alors, le Palais des Glaces, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, le Théâtre de Paris, il y a Denis qui va commencer, à partir du septembre, une pièce de Sophie Cotin, avec une bonne distribution, Raphaël Cambrai, Salomé Villers, qui est une très bonne comédienne.
Ça va être bon, certainement très bien.
Et puis, un comédien avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est un merveilleux comédien, qui est Michel Papineski. Voilà, j'ai beaucoup travaillé avec lui, qui était formidable. C'est un des piliers de la synchro, mais il mettait tout son argent avec le théâtre. Enfin, c'est un passionné, un type merveilleux.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est la voix française de feu Robin Williams.
Ah ouais, c'est un... Il y a Hugues Bourrois aussi qui va commencer à partir de septembre. C'est une mise en scène de Daniel Benoît. Bon, on connaît Daniel.
Ça va être, je pense, j'ai vu des extraits, ça va être très très fort, puisqu'on a ce grand monsieur... qui va jouer Hugues Bourrois, qui est, vous avez le nom devant vous, Jean-Luc. André Marcon, qui va jouer Ubu. Mais là où Daniel Benoît était très très bon, c'est qu'il a créé Hugues Bourrois à la Maison Blanche, c'est-à-dire que Ubu va avoir la tête de Donald Trump.
Ah, la tête de Donald, oh là là. Oh là là, ça c'est de l'invention, ça. Hein. Alors, ensuite, vous avez au Paris-Villette, vous avez Virage, hein, bon, je vois ce que c'est. Et puis la disparition de Joseph Mengele, on en avait parlé. Illusion. Alors tiens, je reçois un petit message. Bonjour, je me permets de vous recommander d'aller voir Jules Verne à l'Hôtel des Rêves, rue du Cardinal Lemoine. Parfait pour les enfants et les adultes. Bon, très bien.
Eh ben, merci pour la bonne idée.
Ah, merci du conseil.
Oui. Formidable, merci beaucoup.
Alors ensuite, vous avez Illusion qui va commencer à partir du 15 septembre. Hein, tout ça, c'est au Paris-Villette. C'est bien que le théâtre du Paris-Villette reparte, hein, parce que ça, ils avaient... Bon. Ensuite, le passage vers les étoiles, les hommes ont toujours raison, les femmes ont toujours raison, les hommes ont jamais tort. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, c'est des reprises. C'est rigolo.
Oui, c'est rigolo, oui.
Bon. Alors, le théâtre de Passy.
Ah.
Redoutable, qui va commencer. Ça a commencé ?
Ça a commencé cet été, et nous l'avions vu saison dernière, puisque c'était...
Avec Juliette Méniac, tout ça. C'est une mise en scène de Jean-Luc Moreau, ça devrait être pas mal.
Ah, mais c'est pas plus que pas mal.
C'est très bien.
Vous imaginez trois comédiennes qui jouent une pièce de théâtre et elles terminent. Alors, c'est les cinq premières minutes, elles jouent leur pièce. C'est un peu ringarde, mais enfin bon. Et puis, le rideau tombe et elles rentrent dans leur loge. Et là, c'était la dernière. Parce qu'ils vont faire le film sur cette pièce.
Ah,
et
oui.
Ils tournent la semaine suivante. Or, il y a un coup de téléphone de la mère d'une des comédiennes qui dit: je viens de voir dans la presse que le film de la pièce tourne la semaine prochaine avec Sophie Marceau. Alors, mais attends, elle va remplacer qui, Sophie Marceau, parmi les trois? Alors, il y en a une qui dit, elle va te remplacer toi, t'as tellement été mauvaise depuis 300 ans. Et là, elles vont se griffer pour savoir qui va reprendre le rôle. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a pas que Sophie Marceau, il y a aussi Marion Cotillard qui est prévue. Donc, il n'y en a plus qu'une qui va rester. Et laquelle des trois? Elles sont méchantes, elles sont mauvaises, et en même temps, C'est un merveilleux moment, ça dure 1h15, redoutable, mise en scène par Jean-Luc Moreau, allez-y, vous allez vraiment...
Bon, j'essaierai d'y aller.
Et sachant que les trois comédiennes qui sont sur scène sont aussi les trois autrices, donc elles l'ont écrit vraiment pour elles, et avec Isabelle Alexis, qui elle n'est pas sur scène.
Oui, il y en a quatre, oui. Alors, il y a aussi La soirée avait si bien commencé, vous l'avez vu ?
Oui.
Oui.
Moi aussi, je l'ai vu.
C'est une comédie drôle et sympathique, oui, c'est bien.
T'as trouvé ça drôle et sympathique?
Oui.
Mais là, tu vois que c'est bien?
Bah oui, 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 parce qu'on passe un bon moment. Voilà, c'est une pièce avec un humour sans grosse vulgarité, où on passe un bon moment. Voilà, c'est une pièce, c'est une comédie où on passe un très bon moment. Voilà, c'est tout.
Et tu penses pareil?
Au Théâtre de Passy, on est très bien assis, donc quand on s'assit, on se dit, la soirée a bien commencé. Non, j'ai passé un bon moment.
Bon. Alors moi, j'ai eu une expérience extraordinaire avec cette pièce, parce que comme je l'ai vue avant de partir à la campagne pour écrire, Et donc j'ai fait le papier peut-être 3 semaines après, après l'avoir vu. Et je me suis retrouvé devant la page blanche, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Mais je ne savais, je ne me souvenais strictement de rien. Et donc j'ai fait le papier en expliquant ça. Comme tu dis, c'est un critère.
C'est un critère.
Hein, toi, c'est comme le critique à qui on dit « Mais monsieur, vous n'avez pas vu ma pièce, vous avez dormi tout le temps. » On dit « Oui, bah, c'est un point de vue. » D'avoir dormi tout le temps, hein, bon, c'est une critique. Ben là, c'est pareil. Je n'ai... Alors, la seule chose dont je me souvenais, parce que c'est qu'il y avait des comédiens charmants. Quoi.
C'est un anniversaire surprise.
C'est ça, oui. Oui.
Le type arrive, il arrive en retard. Sa femme fait très très mal la cuisine.
Elle
invite un couple qui sont les voisins.
C'est ça.
Et en fait, on s'aperçoit qu'on est encore dans Cosy Fan Tout, une relation croisée. C'est-à-dire
c'est qu'en fait, celui dont on fête l'anniversaire va téléphoner. Bah, je suis en retard parce qu'il dit à son pote avec qui il travaille bah, j'étais avec un tel, j'étais avec la mannequin avec qui on travaille.
Tel, ouais.
Et sa femme pense qu'il la trompe et vu qu'elle est corse d'origine. Elle va sortir toute l'artillerie pour se venger, alors qu'en fait, il la trompe pas du tout.
Il la trompe pas, il couvre les tromperies du copain. Voilà, oui, c'est ça.
Bah, vous avez bonne mémoire.
Voilà. C'est pas si mal.
C'était le néant complet. Quoi.
Ah oui.
Pour ce genre de spectacle, de pièce, comme ça, voilà.
Et là,
en revanche, je me souviens, parce que un des comédiens qui joue, qui est un type absolument charmant, qui est Thibaut Delucy, qui a coécrit la pièce. Donc, je me souvenais de Thibaut.
Oui.
Point final, et de rien me venait. J'ai passé une demi-heure en me disant. Puis comme j'étais à la campagne, j'avais même pas,
Internet
pour raconter l'histoire, pour ça. Donc j'ai fait le papier en racontant que je ne savais rien.
Dans ce cas-là, il faut appeler Nadir.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser. Oui, mais
je n'avais même pas de téléphone.
Ça me fait penser au sketch de Raymond Devos. Je vais parler pour ne rien dire.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est assez drôle comme expérience. Quoi. Tu te retrouves comme ça. Mais ça m'arrive de temps en temps. Hein. Quand tu vois les pièces un peu là, tu t'en vois tellement, tu finis par...
Mais on est tous...
Bon, donné,
ah, bah, bien sûr.
Non, mais, oui,
on est tous humains.
Non, je n'ai pas mis ça sur mon âge. J'ai mis ça sur la...
Mais non,
ah,
non
la médiocrité.
Mais moi, ça m'arrive.
Quand vous voyez une pièce tous les soirs et on vous demande ce que vous avez vu lundi en 8... Faut ouvrir le carnet. Hein.
Ouais. Alors, moi, j'ai honte. Ce que je fais, c'est que je regarde sur mon téléphone parce que pour me rappeler, je prends des photos des saluts. Donc, je regarde les photos. Et j'ai vu quoi là ? Ah oui, c'était ça. Je vais écrire dessus. Non, c'était trop mauvais. Bon, je me suis endormi des fois pendant des pièces quand même.
Je suis embêté parce qu'on ne va pas avoir le temps de finir. Donc, on mettra ça l'année prochaine.
Alors, ce qu'on peut dire...
Le mois prochain.
Non, alors,
mais on va parler de 2-3 spectacles qu'on a vus.
Je crois savoir que vous n'avez pas aimé Tout Feu Tout Flamme d'Arthur Juniau
à la Comédie de Paris
et qui commence à la Comédie de Paris.
Non, je l'ai pas vu.
C'est une pièce sur Jeanne d'Arc et c'est une comédie musicale. Ils sont 6 sur scène ou 5. C'est remarquable parce que c'est très drôle et surtout à la fin, lorsqu'elle est brûlée, là on rigole plus.
C'est sur Jeanne d'Arc. Que Jeanne d'Arc est finie brûlée.
Lorsqu'elle est brûlée, là on rigole plus. Alors après, il y a un final qui relance le truc. Mais il y a une très très bonne idée, qui est de dire que les maires arrêtent de débaptiser les plages Jeanne d'Arc, les rues Jeanne d'Arc, les avenues Jeanne d'Arc, pour les appeler autrement, en disant que Jeanne d'Arc n'avait pas existé, ou que c'est Front National, ou tout ce que vous voulez. C'est une femme qui a combattu, et si elle a été brûlée, c'est parce qu'elle a pris le rôle d'un homme, parce qu'elle a pris une armure. Mais c'est une femme qui a combattu, et ça fait partie des grandes figures féminines de la France qui ont fait avancer notre pays. Et donc, terminer comme ça, dans cette comédie musicale complètement délirante, mais vraiment délirante, où vous riez beaucoup, vous avez ce moment de torture, vous avez la mort, et vous vous rendez compte que c'est une grande héroïne de notre histoire. Et ensuite, on a un final qui fait que la salle est debout, explose et chante. C'est vraiment un spectacle à voir, écrit et mis en scène par Arthur Juniau, et c'était la Comédie de Paris.
Alors, on va faire un équilibre. Je voulais pas parler du Théâtre du Nord-Ouest, mais là, en ce moment, il y a quand même un spectacle sur les minutes du procès.
Le procès de Jeanne d'Arc.
Le procès de Jeanne d'Arc, les minutes du procès, avec uniquement des textes sur le procès, dit les mots de Jeanne d'Arc, et vous verrez que la vérité, là, on peut penser ce qu'on veut, mais ça transpire le vrai, quoi. Elle est puissante, forte, intelligente, subtile. C'est une des grandes saintes. Moi, j'ai vu... Oui. Ouais, pardon.
Ah,
moi,
j'avais conseillé un spectacle également que nous avons eu avec Christophe au Théâtre du Palais Royal. Le guide du parfait gentleman assassin, qui est une comédie musicale également, américaine, adaptée par Stéphane Laporte, mis en scène par Virginie Lemoine, dont nous avons parlé tout à l'heure. On a passé... Enfin, je prêche pour ma paroisse. J'ai passé un moment absolument délicieux et hilarant. Et je tenais à féliciter Benoît Cohen parce qu'il joue... plus de 8 rôles sur scène dans ce spectacle. C'est une adaptation d'un livre qui a été adapté déjà au cinéma. Le film s'appelait Noblesse oblige, avec le grand Alec Guinness. Voilà. Et Benoît Cohen interprète les 8 victimes de ce spectacle et c'est absolument hilarant.
Bon, moi, il me reste 4 minutes. Là, je voulais parler du spectacle que j'ai vu hier soir. Hein,
oui,
je suis rentré là et qui s'appelle Pierre Feille. C'est au studio Héberto. Et c'est donc la nouvelle pièce de Benoît Marbot. Bon, alors le problème, c'est vraiment intéressant parce que, enfin, c'est un vrai auteur. Quoi.
Oui.
Il a écrit au moins, voilà, il n'y a rien à dire. Il y a, en plus de ça, le grand plaisir de ce spectacle, c'est qu'il y a pas mal de comédiens. Au studio Héberto, quand on voit maintenant le nombre de solos qu'il y a, et de voir 5-6 comédiens sur scène, alors qu'il n'y a strictement aucune espèce de possibilité de rentabilité. Donc, c'est formidable. Et dans la distribution, il y a des gens très bien, comme Rosa Ruiz, Benoît Dugas, vraiment des gens, Maureen Dubu, Pierre-Antoine Lenfant, enfin, etc. C'est des bons comédiens, tout ça fonctionne pas mal du tout. Mais le problème, c'est qu'il a un sujet, mais merveilleux, merveilleux. Et puis qu'il gâche complètement.
Aïe.
C'est hallucinant de voir ça. Le sujet merveilleux, c'est ça. On est en 40, hein, dans un château, voilà. Arrivent des soldats français qui disent on va défendre le château, on va défendre la France. Et la châtelaine dit non, surtout pas, les Allemands vont détruire le château. Donc ça pose un énorme problème. Et on a vu ça, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on a vu ça nombre de fois. Mon père me racontait, par exemple, que comme il était soldat, il se retrouvait devant un village et le maire venait en disant « Surtout, partez, partez !» pour défendre le village, tu vois. Et ça explique très bien comment on a pu perdre la guerre de 40. Avec des gens comme ça qui préservaient leur petit précaré.
C'est le premier film de Rapneau qui nous a quittés cette semaine, voilà. La vie de château.
Oui, ben c'est ça, voilà. Ben c'est des thèmes absolument forts. Mais il en fait n'importe quoi. Mais n'importe
dommage,
quoi,
ouais.
Ça n'a aucun sens. Ça se perd complètement. C'est dommage, quoi. Alors qu'il a du talent. Et puis alors, en plus de ça, il ne devrait pas mettre en scène ses pièces. Parce que visiblement, il ne sait pas diriger les comédiens. Enfin, il ne sait pas ils se mettent en file indienne. Enfin, ils sont complètement de devant. Ils jouent en face publique. Il y a des immobilités, ça ne fonctionne pas. Un metteur en scène un peu brillant aurait pu sauver sa pièce. Mais là, c'est vraiment
alors, si,
dommage.
Alors, si vous voulez terminer par un feu d'artifice, oui. Vous allez au Théâtre des Variétés voir un succès fou, la nouvelle pièce de Sébastien Castro, qui, après une idée géniale, où ils ont joué quand même 850 fois dans une mise en scène de José Paul, là, José Paul ne joue pas, il fait qu'une mise en scène. Voilà. On a un immeuble de 3 étages, d'un décor absolument somptueux. Sébastien joue un type qui est célibataire. Son ex l'a quitté, elle s'est installée au rez-de-chaussée. Là, elle est partie en voyage, on la verra pas, mais il s'occupe du chien. Au deuxième étage, il y a Oriane, qui est une célibataire aussi. Au troisième étage, il y a Antoine, un célibataire complètement bigleux. Et vous avez un décor somptueux, avec même le couloir, et il y a un personnage donc qui ne fait qu'entrebâiller la porte pour dire qu'elle a besoin qu'on lui retire ses bas de contention et qu'on s'occupe d'elle. On a des thèmes formidables sur la solidarité d'un immeuble, et c'est drôle, mais c'est furieusement drôle, comme vous aimez.
Bon, de toute façon, moi j'adore José Paul, qui est vraiment un des grands metteurs en scène. Sébastien Castro, en plus, c'est un copain.
Merveilleux.
Donc c'est un type absolument...
Vous savez, il vous la joue à l'ancienne, hein, avec une exposition où il place les pétards, et puis après, ça y est. Ça...
Vous venez d'entendre le libre journal du théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 4 septembre 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.